Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Nous revoici avec Alison et Natacha pour la suite de leur histoire riche en rebondissements, qu'on aimerait plus fun malheureusement. Dans les épisodes précédents, on a appris la grossesse de Natacha avec joie et l'annonce émouvante aux familles. Après une histoire si éprouvante, on ne pouvait qu'espérer une belle grossesse sans encombre pour ce couple si attachant. Et pourtant, parfois le sort semble s'acharner, sans qu'on ne comprenne bien pourquoi. Autour du cinquième mois de grossesse, lors de l'échographie morphologique, une anomalie est détectée sur le cœur de la petite fille de Natacha et Alison. À partir de cette découverte, le branle-bas de combat médical s'enclenche. Les examens, tous plus invasifs les uns que les autres, s'enchaînent pour déterminer si derrière la cardiopathie se cache notamment une maladie génétique. Bref, c'est un tout autre combat que vont mener les deux futures mamans. Un combat pour la vie de leur petite fille qui semble être aussi forte que celle qui ont choisi de la lui donner. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Alison, bonjour Natacha.
Bonjour Élise.
Bienvenue de nouveau sur Prenons un café. La semaine dernière, vous nous racontiez votre expérience de la PMA. Je vais pas dire aventure, parce qu'aventure, ça fait trop guiré, tu vois. Genre,
c'était super sympa.
Un chemin qui sent la noisette et tout. Non, on ne veut pas ça. Donc, votre parcours PMA, aujourd'hui, on va parler de la suite, de ce qui s'est passé après. Parce que oui, ça a fonctionné. Parce que oui, Natacha, tu es enceinte aujourd'hui de 8 mois.
Oui, dans 5 semaines, j'arrive à terme.
Waouh. Et ben du coup, on va revenir 8 mois en arrière.
Oui.
À la découverte de cette grossesse. Tu es rentrée tôt de la maison,
ouais.
Je m'en souviens.
Voilà, c'est
ah
ça.
Ouais. Ah ouais, et là, il faut qu'on reprenne parce qu'on n'a pas fini. Je rentre, je me gare à l'arrache, je tourne, je ne trouve pas de place, je me gare devant un garage, je ne me gare jamais. La vieille dame est sortie, elle m'a mis un coup de bombe de peinture sur toute ma bagnole.
Mais non.
Elle a bombé toutes les vitres en blanc.
Toute ma caisse. Un truc de fou.
Elle savait que c'était la tienne.
C'est très bien que c'est la voisine.
Ouais, mais bon, je pense qu'elle a pu toute sa tête, cette dame. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Et heureusement que c'est tombé le jour-là, parce que sinon, je pense
c'est l'anecdote.
Je mettais une bombe.
Décidément, ce jour n'était pas avec vous.
Ouais. C'était fou, cette journée.
Mais ouais.
L'annonce.
Et là, on rentre à la maison. Et puis oui, là tout de suite, ce qui nous vient, c'est aller l'annoncer...
aux mamans.
À nos mamans
tout
et
de suite,
à nos
direct.
Ah ouais.
Genre, direct.
Ah ouais. On annonce direct. Tout de suite.
Vous avez convoqué...
Mais nous, on a débarqué chez les gens.
En fait, on savait que c'était un mercredi, parce que j'étais à domicile, donc c'était un mercredi. Et on savait très bien que la maman Natacha gardait son neveu. Mais on savait qu'elle allait le redéposer. Donc on s'est dit, on tape dedans, on va sur ce moment-là.
Comme ça, tout le monde est ensemble.
Il y a la sœur et Nadine. Et ma mère, je l'avais eu au téléphone pour savoir un peu ce qu'elle faisait, pour un peu essayer de découvrir le programme. Je savais qu'elle allait faire une attaque. Une attaque, c'est quand elle va... par surprise, aller voir ses petits-enfants, parce que ma mère, ses petits-enfants, c'est quelque chose. Et du coup, je savais qu'elle faisait une attaque. Donc, je dis, bah, nickel, elle sera là-bas. Donc, on va chez ta sœur. On va, et puis le soir, on va chez ma sœur. Et elles étaient toutes les deux là, quoi.
Tu racontes pas le truc de fou qui me restera ancré dans ma tête. C'est, on dit, comment on va l'annoncer ? Alison a dit, je vais offrir une bougie. Qu'elles allumeront pendant les 3 mois, parce que ben voilà, ouais. Ça y est, on rentre dans le truc, attention, les 3 mois, tintin. Et moi, j'ai trouvé 2 petites cartes, donc on va chez, on peut dire un magasin ?
Oui.
On va chez Mouflette.
On n'est pas sur TF1.
On va chez Mouflette à la Madeleine, un magasin qu'on adore, et à ce moment-là, Alison se gare, et là, je vois une femme enceinte qui passe devant moi, et là, je la regarde et je me suis dit, ouais, maintenant, je vais plus avoir mal au cœur quand je vais voir ces femmes enceintes. C'est triste, mais c'était le cas, quoi. Et on rentre dans Mouflette. En fait, il y a tout un corner enfant. Je me suis effondrée en larmes dans ce petit magasin avec toutes ces choses mignonnes pour bébé que j'évitais, en fait. Hein. Non, il n'y a pas de corner enfant. Non. Et je me suis dit, ah, mais en fait, là, on va pouvoir acheter des trucs pour notre bébé, quoi. Ouais. Bon. On est là et c'est pour notre bébé, en fait. Ouais. On est là et c'est pour annoncer la naissance. La naissance, pas du tout. La grossesse. Oh, c'est vrai qu'on l'a... J'ai fondu en larmes.
Enfin, je sais pas, quand tu t'as... On s'est toujours projeté l'annoncer à nos familles. Enfin, moi, perso, je me projetais tout le temps et je me disais, ah, comment on va faire. Bon, au bout d'un moment, tu penses plus parce que c'est lourd. Mais ouais, c'était vraiment... Ça nous a fait du bien l'annoncer. Enfin, là, on l'a dit la fois dernière, mais c'est vrai qu'il y a cette forme de soulagement qu'on a vu dans les yeux. C'était vraiment...
Mais elles ont compris tout de suite en vous voyant débarquer comme ça à l'improviste?
Non.
Non.
Les sœurs, enfin... je me demande si elles n'ont pas plus vite compris que les mères. Je sais pas.
En fait, on l'avait... Il y a eu aussi quelque chose. On le disait souvent quand on partait en Espagne.
Ah oui, c'est vrai.
Et cette fois-là, j'ai dit à Natacha, on ne le dit pas. On ne le dit pas parce que je veux pouvoir donner la surprise.
Et puis il n'y a pas d'attente comme ça.
Ouais, et puis il n'y a pas de...
Bon. Et alors,
bon, les gens, ils ne nous demandaient pas trop quand même.
Oui, ouais, quand même.
Mais c'était la fois où on a dit, on ne le dit pas. Et sauf que ma mère, elle m'appelle tout le temps. Et deux, trois fois, elle dit, ah, tu veux passer? Non, je ne suis pas là. Ah, je peux passer là? Non, je ne suis pas là. Bon, après, elle a arrêté de poser la question parce qu'elle a compris qu'on n'était pas là. Mais elle dit, ah, je me doutais que vous étiez partis. Et voilà, c'était la fois où on ne l'avait pas dit.
On a juste mis une copine dans la confidence parce que tu as besoin d'en parler quand même.
Oui, et moi aussi, il y avait ma meilleure amie qui était au courant.
Mais c'est vrai qu'on, je sais pas, Alison, elle voulait absolument pas le dire. C'était vraiment une condition là, pour ce voyage-là, parce qu'on en a fait...
Enfin, surtout les familles.
On en a fait 10.
Les collègues, ils sont au courant, forcément. Oui. Ils savent très bien. Mais... Toi, une copine.
Oui, oui. Mais c'est vrai que du coup, on a pu avoir vraiment la surprise.
Ouais.
Et quand j'ai filmé, mais j'ai pas.
On n'a pas la vidéo sur le podcast.
On n'a pas la vidéo, mais j'ai filmé. Ta sœur, elle éclate en sanglots.
Voilà, tienne aussi.
Éclate en sanglots. Oui, ma sœur, elle a dit la phrase qu'on avait dit quand on avait gagné la Coupe du Monde là, en 98. Bah avec ça, on peut mourir tranquille. Ou je sais plus ce qu'il avait dit. Oui, et on s'est serré dans les bras. Enfin, mais t'annonces quelque chose, mais que t'as pas du tout réalisé.
Ouais. Oui, vous l'aviez pas encore process.
Bah pas du tout. On est, ça fait 3 heures qu'on est au courant.
Ouais. Ouais. Autre truc. En fait, je suis juive de base. Là, pas très patricante, mais bon voilà. Et on a fait le transfert le jour de la nouvelle année juive. Et j'ai dit, si ça marche, je fais Kippour. Kippour, c'est le jour du grand pardon. Tu jeûnes la veille au soir jusqu'au le lendemain matin. D'accord. Et le jour de la prise de sang, c'était le premier soir de Kippour. Donc j'ai dit, si ça marche, je le fais. Ça marchait, forcément, je l'ai fait. Mais sauf qu'à l'annonce, moi, j'ai picolé.
Un petit peu. L'abus d'alcool est pas bon pour la santé.
Ouais. Sauf que du coup, j'ai pas mangé de la journée le lendemain.
J'étais dans le malus.
Bon, c'est impossible de dormir. Il était 3h du matin. Alison, elle fait jamais ça. Elle chantait des chants juifs. C'était...
On a...
C'était n'importe quoi.
On a regardé notre cérémonie de mariage.
Ah oui, on a regardé notre cérémonie de mariage parce qu'on dormait pas dans le lit. Enfin, ouais.
Impossible quoi. Vous impossible. Étiez trop sur l'excitation, ouais.
Mais c'est surtout. On réalisait pas.
Ouais.
Trop, je crois. Mais en même temps, incroyable.
Incroyable. Ouais. Incroyable.
Après, on l'a annoncé aux familles. Après, on a attendu.
Après, ça a été dur je voulais pas l'annoncer.
Pas l'annoncer. Moi, j'étais en mode, vas-y.
On le dit à la planète entière.
On le dit à la planète entière. Natacha, elle voulait absolument pas.
Pourquoi tu voulais pas? T'avais peur?
Bah ouais.
Les 3 mois?
Ouais. Ouais, j'avais peur des 3 mois, je crois, et je crois que je n'intégrais pas. Comment? C'est difficile de dire... C'est comme si je devais dire je suis brune alors que je suis blonde. Enfin, je sais pas comment dire, tu sais.
Oui, c'est pas naturel. Après avoir passé autant de temps dans l'infertilité,
ouais.
De se dire en fait je suis enceinte. Déjà, même sans infertilité, je crois que c'est un mot qui... Enfin, c'est une phrase qui met du temps à sortir.
Oui.
Ah. Et puis surtout, en plus, ça se voit pas. Enfin, je veux dire, il y a que toi qui le sais. Dans la rue, personne va te dire, ah, c'est une femme enceinte, tu peux pas passer à la caisse prioritaire. Les gens te disent n'importe
ça
quoi.
Ça marche pas vraiment, cette histoire.
mais enfin, non, mais tu vois, ça se voit pas. Donc, en fait, t'as l'impression d'être un peu imposteur, tu vois, dans cette grossesse, de dire, en fait, je suis enceinte, mais je suis tellement au tout début de la grossesse et tellement, on te répète tellement qu'en plus, il peut tout se passer sur ces 3 premiers mois que t'as l'impression que tu peux. T'as pas l'autorisation non plus de te réjouir et de le dire. Enfin, c'est un truc que beaucoup de femmes enceintes ressentent.
C'est cette sensation d'avoir besoin d'être dans mon cocon parce que déjà j'étais archi angoissée. Et en fait, quand tu l'annonces à d'autres gens, qui connaissent un peu ton parcours, bah, ils sont archi angoissés.
Ouais.
Pour toi.
Parce qu'ils ont peur que ça
toi.
Marche
tu
pas.
Tu portes rien, tu fais pas comme ça, tu viens, tu marches pas trop, et puis attention, le chien qui tire pas, machin. Tu mais dans ta tête, mais à tout moment, même t'as peur d'aller faire caca, quoi. Enfin, ouais. Pardon, mais.
Ouais, non, mais t'as peur que ça s'arrête.
T'as peur de pousser, quoi. Mmh. T'as peur que ça s'arrête, et j'arrive pas à me réjouir. J'étais angoissée, mais Alison, elle en pouvait plus là, par contre.
Bah, au début, oui. Après, c'est vrai qu'on a eu tout de suite. On a fait la première prise de sang, on a refait une deux jours plus tard, qui avait bien explosé. Et on était forcément stressés. Et on a un peu appelé notre copine médecin. J'ai dit, tu pourrais pas nous refaire une petite ordonnance, s'il te plaît,
ouais.
refaire une pour vraiment être. Se rassurer. C'est vrai que. T'as toujours peur que ça. Enfin, ouais. C'est tellement, ça a été tellement compliqué que tu as peur que du jour au lendemain, tu te dis, ouais, en fait, c'est un rêve, meuf. Et comme c'est parcours PMA, c'est vrai qu'on devait, la clinique nous imposer de faire une échographie à 7 semaines.
Et puis moi, je suis encore en sous-traitement, hein. Attention, hein, j'ai des bleus partout. Voilà.
Ouais. C'est vrai qu'on ne le précise pas, mais elle a des traitements de poney. Quoi.
Pour endométriose?
Non, pour garder le bébé.
Ah oui, d'accord.
Parce que j'ai un utérus contractile.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Il y avait cette histoire aussi.
J'ai un utérus contractile, donc t'as des médicaments pour ça. T'as plus de progestérone, donc j'avais des pour les filles qui font la PMA. Donc j'avais 2 ovules le matin, 2 ovules le soir, et une piqûre de progestérone le matin, une piqûre de progestérone le soir.
Pour que ton utérus ne rejette pas l'embryon.
Exactement. Mmh. Pour calmer la contractilité. Oui, le Lovenox.
L'aspirine.
Ouais. Oui, bref, on n'était pas sur quelque chose d'hyper naturel.
C'était pas léger. Ouais. À 19h pile, il fallait faire les traitements, les machins.
Il y avait tout un stress des mais horaires si. De ne pas oublier. Parce que oui. Il y a une fois, je me souviens, elle avait oublié. Bah, même pendant l'attente des 10 jours, une fois, je sais pas, le réveil n'a pas sonné. Et puis elle a fait l'injection une heure après. C'était.
C'est un drame.
Là, tu te dis, c'est bon, ça va pas marcher parce que tu t'es loupé d'une heure. Alors qu'au final, on a appris plus tard que, bon, 2-3 heures, c'est pas très grave.
C'est comme la pilule au final. C'est normalement, peu, oui, il te dit à heure fixe, mais en fait,
carrément.
Pas très très grave. Je sais pas si on a trop le droit de le dire, mais si tu l'apprends un peu, une heure ou 2 heures après, enfin, je veux dire, c'est pas dramatique, quoi.
Ouais.
Et du coup, ouais, l'écho.
Ouais, l'écho.
Et là, il y a un bon endroit.
Ouais.
Le cœur qui bat.
Ouais, donc à ce moment-là, le cœur bat déjà, c'est ça qui est un peu angoissant sur les échos précoces comme ça, c'est qu'à 1 ou 2 jours près, tu peux ne pas avoir de cœur et c'est ça peut te stresser. Quoi.
C'est pour ça qu'ils demandent à partir de 7 semaines, parce que je pense que c'est aussi... Enfin bon, il y a un délire comme ça, mais ils demandent à ce moment-là parce qu'on peut déjà entendre
le cœur.
Le cœur et ouais, ça...
Et c'était rigolo de voir la gynéco qui disait... Ah oui, donc vous prenez tout ça comme traitement, ça vous
Ah oui, comment
Elle dit, mais je ne sais même pas ce traitement, où est-ce que vous le trouvez enfin, c'était,
Oui,
c'était
parce qu'en plus,
amusant,
attends, parce que là, vous faites votre suivi en France comme un couple classique qui a conçu de façon lambda un enfant.
C'est ça. Voilà. Mais du coup, elle doit raccrocher les wagons quand même. Ah oui, tout ça. Oh, elle voit les bleus sur mes cuisses parce que je piquais mes cuisses, plus mon ventre, parce que mon ventre, c'était trop douloureux. J'avais les cuisses bleues. Elle me dit, ah oui, là, vous...
Elle n'avait pas les mots, quoi.
Dormir, quoi. Repos, dodo. Vous devez être explosé, quoi. Mais ça allait encore, mais j'étais un petit peu fatiguée.
Et donc, vous voyez le bébé.
On voit une petite boule, là, un petit truc.
Il y avait déjà les petits moignons.
Non.
C'était vraiment 6 semaines.
C'était juste la croche.
Franchement...
Tu pourrais le rater facilement.
Un tétard, quoi.
Ouais, mais t'as le cœur, t'as quand même le mouvement du cœur. Parce qu'évidemment, première question, son cœur bat, c'est bon, son cœur bat. Ouais. Ah oui, le cœur bat, c'est bien accroché au bon endroit.
Et on a vraiment une gynéco qui est vraiment...
Géniale.
Ouais, incroyable. Ouais. Et elle nous dit, bon, comme c'est un parcours compliqué, je vous mets des échos toutes les 2 semaines.
Ah, génial.
Donc, normalement, t'en as qu'une. Tu vois,
T'en as une là, pour... c'est l'écho de datation, tu dis.
C'est ça. Ouais.
Et après, t'as l'écho du premier trimestre.
Celle-là, elle n'est même pas obligatoire, apparemment.
Non, elle n'est pas obligatoire. Moi, je l'ai eu, j'adorais.
Du coup, on a cette écho-là, une écho 2 semaines plus tard, et la vraie écho du premier trimestre, encore 2 semaines plus tard. Donc, bien. Et là, écho du premier trimestre... C'est le truc de la clarté nucale.
Ouais, pour vérifier la trisomie et tout ça.
On fait cet écho-là, vraiment, c'est à partir de 11 semaines que tu peux la faire. Entre 11 et je sais plus combien. Et on la fait vraiment à 11 plus 1. Tôt,
Un peu tôt.
Du coup, le bébé est petit. Elle fait la truc et tout, Et c'est la trisomie, pour ceux qui connaissent pas plutôt, c'est des stats. Donc en gros, elle mesure le bazar, elle rentre dans son ordinateur avec tous ses chiffres, l'âge de Natacha, et là, ça nous sort un score.
Ouais.
Et là, une chance sur 400 que ce soit trisomie. C'est un risque intermédiaire. Ouais.
C'est pas le plus faible, enfin c'est pas le plus gros risque plutôt, mais c'est à partir de là, on vérifie, on fait plus de tests.
Mmh. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc elle nous dit, écoutez, faites une première prise de sang, là on fait la prise de sang que tout le monde doit faire, classique. Elle reviendra certainement en risque intermédiaire, et de là vous faites le DPNI, où c'est là où ils analysent un peu de sang du bébé via le sang de la mère. Et là, ils ont une réponse à 99,9%.
Ouais.
De chance que ce soit ça. Du coup, on ressort de l'écho. On dit, c'est pas possible. Ça peut pas être simple.
Et puis mes prises de sang étaient un peu compliquées. Mais
c'était à cause
des examens d'urine étaient compliqués parce que j'avais tellement de traitements que les médecins ils m'appelaient en alerte. Mais qu'est-ce que c'est ? Ils comprenaient pas. J'étais pas. Oui. Du coup, t'avais toujours des frayeurs avec tes examens. Et puis là, bon, des PNI. Bon, moi, je fous en larmes. Hein. J'ai pas du tout de patience pour qu'on me dise qu'il y a un truc qui va pas.
Ouais.
Mais pas du tout. Voilà.
Elle sort en larmes. Je dis, attends, écoute, c'est un score. Ouais. Ma sœur, pour son deuxième, elle a eu le même truc. J'ai dit, c'est que des stats, t'inquiète et tout.
Plein de monde y passe.
Et ouais, donc on devait attendre de
ah, mais
les meufs patientes.
Plus, quoi.
Ouais.
Ouais.
En fait, c'est pas tranquille, tu vois.
Ouais.
On devait faire la première prise de sang, attendre le résultat, faire la deuxième prise de sang. C'est 500€ la prise de sang. Hein.
Mais elle est remboursée maintenant, non ?
Si t'es en risque intermédiaire.
Ouais.
Si t'es en risque élevé, même si t'es à 1% de plus, c'est pas remboursé si t'as un risque normal.
Ouais.
Et là, on dit, écoute, ça va nous perdre 5 jours. Ça va certainement revenir en risque intermédiaire. On prend le risque. Au pire, on paye 500€. De toute façon, à ce moment-là, on se dit, on n'est plus à ça près.
Ouais.
Les meufs, t'as rien.
Bah, ceci dit, en même temps, c'est vrai.
Franchement. Ouais, ouais. Bon, voilà. Enfin, bon, bref, on se dit, tant pis. On demande les deux en même temps. Et là, elle nous dit, la fille, ouais. Non, je peux pas vous le faire. Vous devez payer. On dit, oh, ok, on paye. Et après, moi, je me suis dit, ça va revenir en risque intermédiaire. On fera passer, on sera remboursé. Et là, on fait les deux. Ça revient négatif. Donc là, on l'a su ça mi-novembre. Et Natacha voulait toujours pas le dire officiel. Moi, je voulais faire ma petite photo sur Instagram. Faut pas se cacher.
Elle est hyper importante.
La petite photo, genre. Et ouais, on a réussi, les gars. Et là, je lui dis, bon, là, c'est bon.
Est-ce que je peux faire ma photo ?
Le premier trimestre, il est passé. Des PNI, c'est fait. Enfin, tout va bien, quoi, maintenant. Ouais. Tout va bien. Arrête de stresser. Là, c'est vrai qu'à ce moment-là, t'étais hyper stressée tout le temps.
Angoissée. Je suis tout le temps angoissée. J'ai des crises de larmes. Et s'il y a un problème ? Et un problème de santé ? Si ça va pas ?
Et si je le perds ?
Et si je le perds ? Et puis, si son cœur ne bat plus, d'un coup, son cœur, il peut ne plus battre. Donc, à chaque fois qu'on faisait une écho, son cœur, il va bien. Son cœur, il va bien. Je pense que toutes les futures mamans font ça, je crois. Mais moi, j'étais...
Oui, il y en a qui sont plus angoissées que d'autres.
J'étais particulièrement angoissée, je crois. Du coup, les conditions pour reprendre le travail n'étaient pas... Parce que moi, je pensais, oh, c'est bon, une fois que t'as repris, une fois que t'es enceinte, c'est bon. Pas du tout, j'étais explosée.
Non, puis il y a d'autres choses qui entrent en jeu aussi avec la grossesse. Enfin, je veux dire, t'es pas... C'est pas... toi normal plus enfin juste attends 9 mois et après tu deviens mère. Non.
Non. J'avais pas saisi cette information.
Et t'as arrêté les traitements à ce moment-là. La fin des traitements c'était fin novembre.
Ouais, okay. On a eu la fin des traitements et on a eu les résultats, trisomie nickel. Là tu dis je vais pouvoir commencer à vivre ma grossesse tranquillement.
Et donc vous avez fait la photo sur Instagram.
Ouais.
Et là on a...
ouais, et toi un peu après.
Oui.
Moi je me souviens d'une annonce sur Instagram.
Ouais.
Elle était particulièrement émouvante, cette annonce. Non, mais c'est vrai, quand on connaissait d'avance le parcours et qu'on savait à quel point c'était difficile et compliqué d'avoir ce post-là sur Instagram, c'était ouf. Oui. Et même les personnes qui n'étaient pas proches de vous, je pense qu'elles ont eu le même sentiment que ce que j'ai pu ressentir. Et là, je parle en mon nom, mais je sais très bien que je ne suis pas la seule. D'avoir, c'est-à-dire, ah ouais, enfin, quoi.
Ouais.
Et de voir, waouh, enfin, trop bien. Enfin, d'être soulagée pour vous, en fait. Ouais. D'avoir ce truc de, on est trop contente pour vous. Et de dire, ouais, c'est génial, quoi. La vie, enfin, fait un cadeau.
C'est ça.
Mérité à une personne qui faisait déjà beaucoup de cadeaux. et c'était ça qui était fou aussi, de dire, ah ouais, purée, enfin, c'est génial, quoi.
Ouais. Ouais, en fait, quand c'est une écho où t'apprends le sexe, ou je sais plus, c'est cette écho-là où je crois que j'annonce.
Je crois qu'on a su. Ouais, tu vois, t'as dit tout de suite que c'était une petite fille.
Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, oui, bah, du coup, c'est l'écho de détermination du sexe.
Elle nous avait rajouté une écho.
Oui. On se doutait bien que c'était une fille, mais ça s'est confirmé. Et en fait, elle pose la sonde sur mon ventre, et là, bam, il y avait sa tête écrasée. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, quand tu regardes bien, ah oui, d'accord, il y avait sa tête écrasée, genre, coucou, je suis là, sur la sonde, enfin, sur le ventre, du coup. C'était vraiment une image très surprenante, et même la gynéco elle fait ah bah voilà, c'est sa tête. Et là, je te dis, ouais, il y a quand même un humain dans mon corps.
Ouais,
c'est vrai, c'est vrai, allez, cool, c'est bien, ouais, réjouis-toi, tu l'as tellement voulu, bordel. Ouais. J'étais fâchée d'être si vulnérable et d'être, je me dis, mais quel partenaire je suis pour Alison, mais je suis une partenaire en carton, quoi. J'étais en mousse, c'était horrible, une culpabilité pas possible, d'être fragile, mais...
Alors que pourtant, la grossesse, c'est bien... S'il y a bien une période les plus vulnérables de toute la vie, c'est un peu celle-là, quand même.
Ouais, mais tu vois, j'ai eu du mal à l'accepter d'être aussi fragile. Mais vulnérable, tout m'angoissait, tout me faisait peur, je pouvais fondre en larmes d'un coup. J'avais tellement peur pour mon bébé. Ouais. En fait, j'ai tellement peur pour elle.
Est-ce qu'avec le recul, et de ce que vous allez expliquer après, il n'y aurait pas un petit pressentiment, quand même, sur ça?
Bah ouais, malheureusement, j'aurais préféré ne pas l'avoir.
Parce qu'en fait, donc vous faites cette première échographie, à part cette possibilité de trisomie, tout va bien.
Oui.
Il n'y a pas de suspicion d'autre chose.
Non, non,
rien.
Non.
Vous en faites d'autres après, notamment celle où on découvre le sexe. À ce moment-là, tout va bien aussi.
Ouais. Oui, ça rien c'était mi-décembre.
Ok. À quel moment on vous dit, ah, tiens, on remarque quelque chose qui est anormal?
Bah, la T2. Ouais. Là, donc forcément...
morpho.
Ouais, l'écomorpho. En fait, l'écomorpho T2 classique et tout. Donc là, bah, nous... Natacha, on était souvent stressés la veille d'une écho. Là, moi, moins. Bizarrement, Natacha toujours, hein, forcément. Mais voilà, moi, moins. Je dis, ouais, bah, c'est tout, on va voir sa tronche. Enfin, voilà. Cool. Et c'était un lundi. On avait eu le Covid, enfin, on était partis en vacances une semaine en vacances, au ski, on a eu le Covid là-bas en famille, on est rentré plus tôt. On s'est pris une semaine de Covid et on avait appelé, on avait peur que l'écho soit annulé à cause du Covid, mais bon, allez, c'était passé en 7 jours d'isolement, donc voilà, nickel. Elle dit non, on garde, au pire, on mettra des masques.
Ok.
On arrive le lundi et puis on voit qu'elle, tourne un peu sur le cœur. Là, je regarde bien. Parce qu'on a eu des cours d'écho, mais vraiment, voilà, on a eu des petits cours et tout. Et je regarde et j'ai ah, mais il y a un trou, là.
En parlant du cœur de bébé.
Au milieu du cœur. Hein. Et elle me dit, oui. Et je dis, ah, mais ouais, entre les oreillettes, c'est vrai, entre les oreillettes, ça se referme après la naissance. Il y a ça. Bon, voilà, elle fait l'écho, elle revient sur le cœur. Elle reste vraiment du temps et tout. Voilà.
J'arrive pas à avoir mes coupes. Elle arrête pas de dire, j'arrive pas à avoir mes coupes. Elle a souvent du retard, bon, comme souvent des gynécos. Ouais. Mais là, on est quand même à plus d'une heure avec elle, elle appuie sur mon ventre. Ça devient très long. Et j'arrive pas à avoir mes coupes, j'arrive pas... Bon, bah, prenez un petit rendez-vous avec le cardiopédiatre.
Sans plus d'explications que ça.
Non, pas plus d'explications, parce qu'on voit, elle nous dit, bon, on est censé avoir 3 coupes, j'ai pas les 3, j'arrive pas. Et puis à chaque écho, faut quand même préciser qu'elle monte son dos, qu'elle se montre pas, elle se cache un peu. Du coup, elle nous dit, bah écoutez, prenez rendez-vous avec le docteur Waxman, le docteur en cardiopédiatre vraiment très réputé ici. Le temps que j'étais déjà sur mon téléphone, moi, à regarder les rendez-vous pour voir quand est-ce qu'on allait avoir rendez-vous. Et elle me dit, bah, vous avez qu'à appeler. Et
pendant que je fais mes papiers, appelez-la
tout de suite.
Il y avait une urgence.
C'était bizarre, mais on se dit, c'est parce que je veux vraiment valider les choses, je veux vraiment confirmer que tout... Elle a toujours été très prudente avec nous.
Oui,
donc,
et puis bon, après, c'est son métier, si quoi. Elle avait un doute aussi, de toute façon, elle n'allait pas vous affirmer quelque chose si elle n'était pas sûre, en fait.
En tant que gynéco, je crois que
et puis
pas
même,
trop le droit.
Je trouve que c'est pas plus mal, plutôt que de vous alerter et de vous alarmer sur un truc qui potentiellement n'était même pas ça. Enfin, en fait, ça n'en sait rien. Quoi.
Ouais, et puis en plus, alors le trou, donc c'est une CIV que ça s'appelle, c'est une communication interventriculaire, donc il y a un trou entre les deux ventricules qui n'existe pas en temps normal. Elle l'a vu, c'est sûr.
Oui.
Elle l'a vu, elle a très bien vu ce qui s'était passé, mais elle n'est pas spécialiste là-dedans, donc je pense qu'elle a préféré rien nous dire plutôt que nous dire quelque chose qu'il fallait pas
plutôt bien.
Et ce qu'on préfère. Oui. Et du coup, là, j'appelle. Elle dit, vous avez rendez-vous la semaine prochaine. Donc on était le lundi d'après. C'était vraiment encore grosse période Covid. Et moi, on avait pas mal d'annulations Covid. Du coup, je rappelle l'après-midi quand je suis à Dom. Et je dis, écoutez, on est plutôt disponible, je peux me rendre disponible. Je sais qu'il y a beaucoup d'annulations Covid. Est-ce que vous n'aurez pas un rendez-vous plus rapide? Elle me dit, demain matin, 10h.
Ah, génial.
Je dis, banco. Je vois ma collègue et tout, et je dis, ah putain, il y a un rendez-vous demain à 10h et tout. J'hésite parce que j'avais déjà annulé j'avais déjà pris ma matinée pour aller à l'échographie, parce qu'on sait très bien quand on arrive, on sait pas quand on part. Mais forcément, maintenant on comprend bien, hein, dans notre cas, quand tu cherches, t'es en train d'annoncer un truc pas cool, t'as du retard, tant pis. Hein. Donc du coup, rendez-vous le lendemain, j'ai ma collègue, ouais, j'ai peut-être pas encore annulé, ça fait beaucoup dans la semaine et tout. Elle me dit, t'es con quoi.
Annule.
Et puis après, je dis, bah ouais, je suis bête, j'annule.
Oui, et puis moi, je disais, je suis quand même sortie en pleurs, évidemment, parce que le doute dans mon cœur, dans mon cœur, c'est le cas de le dire, on me confirme à chaque fois que je peux avoir des doutes. T'as raison d'avoir des doutes, en fait. Et puis...
Et moi, je dis, non, mais t'inquiète, il faut juste qu'elle vérifie. Elle est très à cheval, elle est vraiment très bien. Elle laisse rien au doute, quoi. Et je dis, mais t'inquiète, c'est bon, ça va aller, c'est juste une petite vérification et tout, machin. Tu parles, moi j'étais au téléphone le soir avec ma mère, j'y suis sûre, allez, on va pas voir un cardiopédâtre.
La plupart des gens, c'est la première fois que j'ai en plus de 100 interviews peut-être ce genre de communication, donc en effet c'est très rare.
Ouais. Donc on n'était pas débiles, mais on était dans un bon gros déni des familles.
Et dans l'espoir aussi.
Complètement. Oui, et dans l'espoir.
Parce que ça fait peur aussi, tout ce qui touche au cœur, c'est tellement. Important.
Et quand même, dans la voiture, on avait chacune notre voiture, vu qu'Alison rentrait directement du cabinet. Je dis, bon, peut-être qu'aujourd'hui, notre vie bascule. Alison dit, on va confirmer que tout va bien, tout va bien.
Et donc, vous avez ce rendez-vous?
Ouais, le lendemain matin. Et là...
Il
fait une écho ou il se sert des clichés?
Il fait une écho à chaque fois.
Il fait son écho. Et là.
Ça a été assez vite. Il a posé la sonde.
Oui, effectivement, il y a quelque chose.
5 minutes. Il y a bien une malformation. Bon, je fonds en larmes. Alison, elle est hébétée, abasourdie. Elle bouge plus.
Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur?
Elle essaye de comprendre ce qu'il explique.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur?
En fait, on a eu des cours de cardiopédiatrie à l'école. Et donc, j'ai pas 2-3 notions, mais je connaissais quelques-unes. Il y en a 300, je sais pas combien il y en a, mais il y en a quelques-unes. Et donc, je voulais vraiment bien écouter, parce que je sais que Natacha n'entendait plus rien. Je voulais vraiment tout comprendre pour savoir vraiment ce qui allait nous tomber sur la tronche, quoi. Et j'écoute. J'écoute tout et je me dis, je réfléchis pas, j'écoute tout ce qu'il peut nous dire, parce qu'il y a cardiopathie et cardiopathie, quoi. Il y a des trucs pas opérables, il y a des trucs opérables et il y a des trucs où il n'y a pas besoin d'opérer, parce que ça, c'est ça viable comme ça, quoi. Oui. Et bon, de ce qu'on comprend, il nous dit tout de suite, c'est pas très grave.
C'est modéré.
C'est moyen grave.
Dans le descriptif, c'est modéré. Et il me dit, un cœur, ça se répare. Et il a répété cette phrase.
C'est des tuyaux, ça se répare.
C'est des tuyaux, un cœur, ça se répare. Un cœur, ça se répare. Une fois que... Et là, on commence déjà à rentrer dans le dur, quoi.
Donc, il nous explique ce qu'elle a. C'est un ventricule droit à double issu. Normalement, chaque ventricule a son gros vaisseau. Donc, le ventricule gauche à l'aorte et le ventricule droit à l'artère pulmonaire. Chez notre fille... le ventricule droit à l'aorte et l'artère pulmonaire.
D'accord.
D'où le trou entre les ventricules, comme ça. Comme il y a le trou, le sang qui est dans le cœur gauche, c'est un peu compliqué, va quand même dans l'aorte. Bon. Il nous dit, ils vont mettre un patch, comme ça, ça va rediriger le flux, le bon sang dans chaque bon tuyau, et c'est tout. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça.
J'imagine qu'on fait 10 ans d'études pour des choses plus complexes.
Voilà.
Plus que 10 ans, je pense. Mais dans l'idée,
ils mettent un patch pour rediriger le flux. Il y a une opération à 6 et 8 kilos. Pour l'instant, il nous dit ça. Et il
faut
nous
voir
parle...
comment. Si, il nous parle quand même du Bladock. Donc, il nous dit, il faut voir comment le cœur évolue. Parce que là, elle va encore grandir, votre petite. Et donc, peut-être, il faudra poser un Bladock. Il nous fait un dessin.
c'est un tube. Bon, si Alison nous explique, ça sera très clair. Pour moi, c'est un tube qui permet que le sang passe bien, quoi.
Ok. Moi, j'aime bien aussi ces explications-là.
En fait, le problème de cette cardiopathie, c'est que du coup, il y a à la base de l'artère pulmonaire, c'est rétréci. Du coup, le sang qui va se refaire réoxygéner dans les poumons, il passe pas. Du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygéné dans son corps. Du coup, elle n'a pas assez d'oxygène dans le sang. Donc, c'est de la désaturation en oxygène.
Ouais. C'est avec ce qu'on met sur les petites doigts pour mesurer.
Tu es censé être à 98 et il nous a dit si elle a 80-85, c'est beau. Ouais. Déjà, toi, quand tu es à 95-92, t'es pas très bien. Mais bon, sur les enfants, je pense que c'est différent. Et donc, du coup, il dit si il n'y a pas assez de flux qui va au poumon, pas assez d'oxygène dans le sang, du coup, pas bon. C'est-à-dire pas assez d'oxygène au cerveau. Ouais. Donc, on va devoir mettre un petit tube entre l'aorte et l'artère pulmonaire qui va redonner du sang dans l'artère pulmonaire qui va aller se faire oxygéner.
Ok.
En gros. Et là, c'est un petit tube en plastique, pour le coup, qui va nous faire patienter jusqu'à la grosse opération. Enfin, la grosse opération. C'est deux grosses opérations, hein. Mais
Oui, donc en fait, l'opération du tube en plastique, pour reprendre tes mots, Natacha, c'est celle qui a lieu avant les 6-8 kilos.
C'est ça. Ouais,
c'est ça. Celle qui a lieu à la naissance.
Là, peut-être. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il dit peut-être, vous devez accoucher à Paris. Peut-être, il y a cet accouchement, cette petite opération. Il dit, c'est une petite opération, c'est pas grand-chose.
À ce moment-là, on n'avait pas conscience que c'était une opération à cœur ouvert aussi. Ouais. À ce moment-là, on pense que c'est par un petit tube dans la veine fémorale.
Si c'est un petit truc, toi, tu t'attends.
Un petit truc quoi.
Ouais, nous on s'attend un petit truc. Mais je pense que là on était vraiment sur. C'était la consultation. Là tout ça, on parle de ça, c'est toujours le mardi. Hein.
Ouais, ouais, toujours en une seule consultation. Ouais. En une seule consultation.
On n'a pas dit les parties IMG.
Ouais, on n'a pas fini. Donc il nous explique tout le cœur, que potentiellement elle doit avoir le petit tube en plastique. Mais ça, il nous dit pas exactement quand. Il dit potentiellement, il y en aura besoin. Donc on s'était dit, nous, peut-être que si ça évolue pas bien, l'aura, puis après il y aura la grosse opération. Donc voilà, il nous dit potentiellement Paris, tout ça, machin. Et après, il nous dit, bon, ça peut être aussi signe d'une maladie génétique. Il nous dit que du coup, on doit faire absolument cet écho de référence, une amniocentèse, pour écarter tout risque génétique, parce que ça peut vraiment être lié à des maladies pas cool.
Et que en fait, potentiellement, il n'y a pas que le cœur qui serait touché.
Et qu'il n'y aura pas que le cœur qui serait touché.
Et que potentiellement, il faudra...
Ce bébé serait peut-être pas viable.
Viable, ouais. Ouais. Donc soit tu vas au bout de... ta grossesse et ta couche d'un bébé qui risque de mourir à la naissance ou dans les jours qui suivent, soit tu fais une IMG.
Interruption médicale de grossesse.
Voilà. Ouais. Donc ça, c'est tout ça, on du prend coup, tout ça en une heure.
Ouais, lui, il est quand même très réputé ici à Lille. Il dit, j'ai des connaissances et puis j'ai la chance de connaître monsieur. Mes parents les connaissent. Enfin, ouais. Ça tombe plutôt bien parce que du coup, on est traité un peu VIP. Ça veut pas dire que les autres gens sont maltraités.
Je sais pas si c'est bien de dire ça.
Bah, ça reste la réalité en fait. Ouais. Je veux dire, il y a un moment, quand t'as des contacts, c'est toujours plus facile. Ouais. Ouais.
C'est-à-dire que je pense que c'est ça a été ça. Plus rapide que quelqu'un lambda, mais ça veut pas dire que les gens sont pas maltraités. Mais c'est juste que on a eu le rendez-vous l'après, on a eu le rendez-vous d'échographie avec le docteur Coulon à Tourcoing l'après-midi.
Ouais.
Là donc, on a ce truc là.
Mais là, c'est le moment où il faut l'annoncer aux familles en fait.
Vous l'annoncez tout de suite avant même d'avoir.
On avait dit à tout le monde qu'on faisait cet échocardio. Personne n'est des débiles.
Ils s'attendaient à
tout le monde s'est attendu. Enfin, peut-être pas tout le monde. Il y a des gens plus ou moins optimistes. Globalement, je pense qu'ils s'attendaient quand même à quelque chose. Et là, moi, dans la salle d'attente, à maman, je voyais ma mère qui m'envoyait des textos parce que c'était long. Et elle me dit alors. Et je lui envoie un texto. Il y a quelque chose. Et là, faut l'annoncer quoi.
Voilà, t'as un bus qui t'est passé dessus quoi, donc.
Déjà, faut le process.
Il faut déjà comprendre ce qui se passe, ok. J'ai du mal à trouver les mots, mais je sais qu'à ce moment-là, moi, je veux parler à personne.
Ouais.
Et je cherche dans ma tête une personne qui pourrait avoir assez de recul pour entendre ce que je dois expliquer sans être alarmiste ou sans devoir la consoler. Donc, j'appelle pas ma maman parce que ça va être la première. Je vais devoir traiter sa souffrance avant la mienne. J'étais incapable. Et donc, j'appelle ma sœur. Ma maman, c'est un peu ma deuxième maman. J'appelle ma sœur pour lui expliquer. Bon, elle fond en larmes et elle crie au téléphone. Elle comprend pas ce qui se passe. C'est horrible. ta maman, elle est... Alors, ta maman, elle souffre beaucoup, mais c'est une maman qui prend beaucoup sur elle. C'est-à-dire que on... pour savoir comment elle va, il faut lui demander 15 fois comment elle va et poser des questions précises. Sinon, ça va. Ça va.
Moi,
toujours.
Je l'appelle tout de suite. Dès qu'on se sépare avec Natacha, je la raccompagne en voiture jusqu'à ma voiture, enfin, sa voiture. Et j'appelle... Enfin, j'appelle tout de suite ma mère. Quoi. Et là, en larmes, je lui explique ce qu'il y a. Quoi. Bon, allez, je vois qu'elle garde la face, tu vois. Donc, je pense qu'elle pleure après, ou je l'entends pas. Qu'à la fin, mais elle dit ça va aller, regarde. Il y avait son copain qui était là derrière. Elle dit allez, tu vas voir, c'est rien. Enfin, c'est pas rien, mais ça va aller, ça se répare, je l'ai vécu. Enfin...
On a fait des super progrès.
Ouais,
il est incroyable à ce moment-là.
C'est vrai qu'il c'est quelqu'un de. Hyper positif, il est toujours tout va bien se passer, toujours tout va bien se passer. C'est vrai que souvent on arrive à échanger avec lui et c'est vrai que c'est toujours positif, donc c'est vrai que ça aide. Mais voilà, moi j'appelle ma mère.
Mais ce qui nous fait là, ce qui nous fait le plus de mal au-delà de la malformation, c'est il y a peut-être un truc génétique,
il y a peut-être pas que ça.
Alors en fait, déjà la malformation c'était beaucoup, mais en fait tu peux déjà imaginer encore. Pire. Ouais. Là, on peut imaginer le pire. Enfin, là, tu rentres dans le cauchemar. Welcome, le cauchemar devient réel. Donc, t'es dedans. Tout le monde a un peu dépassé, quoi. Enfin,
Après, donc toi, t'appelles ta sœur. Moi, j'appelle ma collègue en disant,
je ne viendrai pas là.
Tu m'annules ma journée. La meuf dans le déni. Non, mais même pas. La meuf dans le déni. Je dis, annule-moi mon après-midi. Je te tiens courant pour la suite. Bon, au final, ils m'ont annulé la semaine et ils sont vraiment au top. Et ma mère me dit au téléphone, tu veux que je prévienne les autres. Donc,
sympa. Ce dont tu avais besoin, quoi.
C'est ça.
Et ma mère, elle a appelé mon frère et ma sœur. Et là, on reçoit, franchement, je pense qu'il était quoi, on est rentré, il était midi, une connerie. Tourcoing nous appelle, vous avez rendez-vous à 14h à Tourcoing.
Ouais. Hyper direct. Rapide, quoi.
Pour l'écho.
Mais ce qui est bien, parce que ça vous laisse pas le temps de cogiter.
Bah là, il faut y aller maintenant, quoi. Donc là, on fait les examens, on y va. De toute façon, les médecins... Enfin, c'est l'air de rien, la médecine, une fois qu'elle s'est mise en route, c'est parti, quoi. Tu peux plus l'arrêter. Donc, on va faire l'écho à Tourcoing. On atterrit doucement. On avait quand même fait un petit texto type qu'on a envoyé au groupe proche pour expliquer un peu ce qui se passait. Les réactions sont totalement diverses et variées. Y en a qui comprennent pas, il y en a qui disent ah ça va aller, moi aussi j'ai vécu des trucs pendant la grossesse. Enfin, les gens.
Il y a beaucoup de et c'est un peu le propre de je sais pas si la vie ou la maternité. Enfin c'est qu'on a tendance à transposer.
Oui.
Et qu'en fait on parle toujours de nos expériences et de nos peurs et nos vécus quand on prend la parole des autres, alors qu'en fait ça n'a rien à voir.
C'est ça.
Et qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on ne le vit pas, même si on a vécu des expériences similaires, ça reste quelque chose qui...
On a quand même des personnes qui nous disent « je connais quelqu'un qui a eu ça », parce qu'en fait, on se rend compte qu'une cardiopathie congénitale, ça touche un enfant sur 100.
Ah oui.
Mais tout ça, on le découvre grâce à l'association des petits cœurs de beurre. Je ne sais pas s'il y a des familles qui vont écouter ça... C'est une mine d'informations. Ils ont fait des fiches. Alors moi, je voulais pas voir, mais Alison avait besoin d'aller voir. La tête pensante. Hein.
Pas tout de suite.
Moi, ce que j'allais dire, c'est pas tout de suite parce que, enfin, vous allez peut-être après, au moment où vous êtes sûr.
Si on fait l'écho de référence, bien sûr, la petite est pas du tout envie de participer, hein, parce que elle vient de faire une écho d'une heure la veille, une écho d'une heure le matin, une écho d'une heure de nouveau l'après-midi, et là elle bouge beaucoup, et il faut qu'elle prenne toutes les mesures parce qu'en fait
elle ressent aussi peut-être tout ça et
Voilà, les médecins disent, je crois que la petite ressent que ses mamans sont stressées.
Sans blague.
Tu penses?
Sans blague. Vite fait.
Il y en a qui sont stressés pour moi.
Franchement, moi, je suis zen. Hein. On est en train de vivre un truc cool.
Elle nous rajoute des trucs par rapport au matin, parce qu'il nous a déjà expliqué pas mal de trucs. Elle dit, il faut que les ventricules se développent bien. Parce que sinon, si les ventricules se développent pas de chirurgie. C'est-à-dire plutôt transplantation cardiaque, quoi. Donc, là, on bascule dans un truc un peu en plus hardcore, quoi. Ce qui n'est pas arrivé.
Mais et donc, du coup, vous faites quoi comme test pour écarter toutes les maladies génétiques possibles et imaginables?
Là, déjà, l'échomorpho,
ouais.
Où elle regarde tout. Et là, ce qui est assez rassurant dans l'eau, c'est que tout va bien. C'est parce que c'est pas une écho normale, elle va chercher des trucs encore plus poussés. Et là, il y a vraiment tout est nickel.
Cool. Il regarde souvent le thymus, le nez. Voilà, il y a des informations basiques pour eux qui sont des références.
Ouais.
Ouais. Donc, et là,
tout va bien.
Ouais. Okay. Et là, ils nous disent, bon, il faut faire une amniosynthèse. Est-ce que vous êtes d'accord?
Bah, déjà, t'es là. Et bah...
Est-ce que vous avez vraiment le choix?
Ouais, c'est ça.
Ouais, tu peux dire, bah.
Tu peux dire non, mais advienne que pourra.
Mais à, mais à ce moment-là.
Mais tu peux pas prévoir la suite des traitements possibles et la naissance même,
ouais,
en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Non, mais de toute façon, la question se posait pas.
La question se posait pas.
On n'est plus à une piqûre près.
Hein. Ouais, et là, elle nous dit.
C'est ce qui se passe. Hein.
Les résultats d'analyse partent tous les mercredis. On était mardi. Tous les mercredis à 10h, non même pas 9h, tous les résultats de toutes les amniosynthèses de la semaine partent le mercredi matin. Je vous propose un rendez-vous soit demain matin à 7h30, soit la semaine prochaine.
Ah mais non.
Ça, si vous voulez, vous avez le temps de réfléchir.
Mais oui, bien sûr. De toute façon, on va bien dormir ces prochains jours, donc je pense que...
Mais du coup, bah on dit oui, hein, forcément.
C'est quand même une chance de pouvoir avoir ce rendez-vous dès le lendemain matin à 7h, quoi.
Ouais. Je pense que le côté.
De toute façon, vous n'aviez pas prévu de faire une grasse mat.
Non, on n'avait pas non plus l'intention de faire une super nuit, visiblement. Et du coup, ils nous disent par contre, vous êtes là bien à 8h pile.
8h,
je crois que c'était 8h ou 7h30, je ne sais plus, c'était hyper tôt. Enfin, bref. Vous êtes là pile à l'heure parce qu'il faut que ça parte. Quoi. Donc, on arrive bien sûr une demi-heure avant. Et,
on n'a pas dormi de la nuit.
Ouais.
Et là. Amniosynthèse, bon, je ne l'ai pas vécu, mais apparemment,
alors là,
examen
c'est
super sympa.
Alors,
c'est mignon.
Pour les personnes qui vont devoir vivre une amniosynthèse, c'est que les gens, les médecins, je ne leur reproche pas, ils cherchent à avoir des mots un peu positifs pour te dire. Mais non, alors, en tout cas, elle participe au podcast, la petite, je vous le dis. C'est un peu comme une prise de sang. Et donc, on a dû faire des prises de sang toutes les deux parce que, vu que c'est l'embryon de Allison,
c'est génétique.
L'ovocyte d'Allison,
donc,
c'est génétique.
Voir. Oui, il faut aller
prendre
chez
la
moi.
Prise de sang d'Allison. Puis, ils m'en refont une parce que bah, c'est mon placenta. Bref. Mmh. Et ils te disent.
Oui, le niveau douleur, c'est comme une prise de sang.
C'est comme une prise de sang.
Lol. On n'avait pas encore fait de lol.
C'est un loli-lol même. Alors là, ils te posent, comme si tu vas te faire opérer, hein, ils te posent
un champ,
ils désinfectent vachement, ils ont les mains, vraiment, on a l'impression de rentrer dans un bloc de chirurgie, même si c'est une petite salle de gynéco de base. Non, en fait, tu dis, ah oui, quand même, c'est quand même sérieux. Puis là, je regarde pas la seringue, mais je sens. Le truc qui traverse mon ventre. Donc, ça traverse ton ventre et ça va jusque dans le... c'est pour prendre le liquide
amniotique.
Donc, il faut faire attention avec le placenta. Et puis, l'aiguille, vous en faites pas, elle est molle, mais tu vois ton bébé... c'est bien, elle est bien placée. Mais tu vois ton bébé qui touche l'aiguille, tu te demandes, OK, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, parce que t'as une écho en même temps, parce qu'ils doivent voir où
c'est
ils vont.
Ça.
Ouais. Mais apparemment, c'est pas un bout... En fait, il y a un truc qui pique, mais en dessous, c'est comme une espèce l'équivalent d'une sorte. C'est mou, quoi. D'accord. Ça peut pas
la blesser. Ouais.
Une amniosynthèse, ça peut à 5% de chance.
Non, 0, je sais pas quoi.
Ah, vous de quoi.
En fait, elle nous a dit, y a autant de chances qu'il y ait une maladie génétique et autant de chances de risque de fausse couche. Il y a il y a beaucoup plus de chances qu'elle ait une maladie génétique que de la fausse couche, donc on prend le risque.
Ouais.
Là, on rentre.
Bah, déjà, la piqûre, ça fait mal, je vous le dis.
T'as pas d'anesthésie locale ?
Non, pas d'anesthésie locale. Et puis, ils prennent ça prend un peu de temps pour ponctionner. Et tu sens que ça fait comme une ventouse. C'est vraiment une sensation étrange. Donc, nous, ce n'est pas du tout la sensation d'une prise de sang. C'est pas horrible, d'accord ? Mais c'est mentir de dire que c'est la prise de sang. Donc je ressors, bien sûr, on n'a pas mangé depuis je ne sais pas combien de temps. C'est vrai que la veille au soir, ma sœur, elle est passée nous déposer un peu à manger, essayer de nous parler de trucs pour nous changer les idées. Enfin, tout le monde essaye de faire quelque chose. Ma maman, elle est venue à l'hôpital le matin même pour essayer de nous soutenir. Mais bon, elle ne pouvait rien faire. Enfin voilà, c'est un peu le branle-bas de combat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Même nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. C'est comme quand il y a un de mes frères qui me dit fighting spirit, force, mais pas du tout en fait.
Il n'y a aucune incidence entre ce que tu vas faire et le résultat.
C'est ça. Non,
c'est
là.
Là,
tu subis le truc.
Tu as juste à attendre.
Tu es dans ton ombre et tu vis dans ton ombre à ce moment-là, dans ton cauchemar, et puis tu respires encore. Et puis là, on sort, j'ai des grosses nausées et j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre.
Donc et là, en fait, c'est... bon, là, tous les examens sont finis. Il n'y a plus qu'à attendre. Et là, il y a tout un truc qui se met autour de nous. C'est vrai qu'au niveau des familles, on a quand même des familles qui
sont vraiment... On sent le soutien. Au début, s'il y a un truc à... Je crois à noter de tout ça, c'est soutien.
Ouais, les amis et la famille.
Surtout la famille et nos amis proches, ouais. C'est
pas un bébé qui a été fabriqué par deux personnes.
Non, ouais. non. Et là, tout un truc se met en place. Hein. C'est vrai que tout le monde disait, qu'est-ce qu'on peut faire, Et c'est vrai que nous, on était paumés, mais c'est vrai qu'on a même le chien, on l'a mis chez nos doxiteurs parce que...
Même ça, c'était
une charge, quoi. Alors que bon, on adore notre chien et même aller se balader, ça fait du bien. On l'a mis 3 jours chez eux parce que ben c'était trop pour nous. Tout le monde voulait faire des choses. Alors sa sœur elle est venue nous déposer du Picard pour qu'on ait des trucs faciles à manger. Au début, on disait non. Et au final, on fait que manger ça pendant 3 jours. Donc voilà.
Continuer pour les 6 mois après.
Je me suis dit.
Mais t'as mené pour l'avenir, Alex.
Le postpartum, le postnatal, on attend les Picards.
Ouais,
les plats.
C'est à une avant-première.
Ouais. Ma mère, elle est venue quand le jour de la myosynthèse.
Ouais, le jour, elle est venue travailler.
Elle est venue, elle nous a ramené des trucs à manger, une petite plantes,
bougies,
voilà. Et c'est vrai que de voir les gens après l'annonce, parce qu'on les a eu que au téléphone et trucs,
c'était à chaque fois tu vois quelqu'un, tu
repleures de ouf.
Tes copains
Tom et Audrey nous ont envoyé un bouquet,
on reçoit un bouquet de fleurs, ça sonne
un bouquet de fleurs,
en larmes. C'est des messages d'amour de nos copains. Ouais.
Ma sœur, elle est venue, elle a cuisiné une tarte, elle nous a fait à manger. Il y a dû quand même, à un moment donné, je repense à aller retravailler quand même. Donc ça a été dur. Heureusement, j'ai envoyé un message à ma copine qui est médecin. Là, je dis, écoute, faut que tu me vois, parce que là, c'est rare pour moi, hein, pour ceux qui me connaissent, mais je me suis dit, je fais comment pour retourner lundi ou l'autre, quoi. Pour ne pas pleurer devant les gens, vraiment, je me suis dit comment je vais faire.
Je voulais
donc, la voir et là, du coup, j'ai dit à ma mère, j'y vais. Donc, elle me dit, ok, je viens faire mon télétravail ici, comme ça, je suis avec Natacha. Et elle m'a mis sous anxiété,
honnêtement.
Ni plus ni moins.
Tranquillou. Donc,
mais t'as pas arrêté ?
Non, pour la semaine. Bah non, moi je travaille pas.
Ouais, mais comme t'as la prévoyance et machin.
Oui,
alors la prévoyance, alors quand c'est.
T'as des carences.
Ouais, alors psychologique, là, ce qu'on a fait pour Natacha, c'est un mois de carence.
Ouais, on a eu un mois de carence. Oui, mais la banque nous a adorés, hein, faut le préciser. Hein. Encore aujourd'hui, on paye.
Un mois de carence. Si moi je fais un truc burn-out ou je sais pas quoi, j'ai un mois de carence. Donc, c'était inenvisageable.
Il va falloir travailler très très fort pour que les problèmes de santé mentale soient
pris en charge
au même niveau que
déjà,
les problèmes de santé physique.
Il y a des prévoyances qui ne le prennent pas en charge.
Oui, enfin, au même niveau que la santé physique, parce que c'est aussi handicapant.
Un mois de carence, t'as le temps d'aller mieux.
Ouais. Et du coup, anxiolytique. Bon, j'avoue les avoir pris les premiers jours. Pour une fois que j'étais arrivée au boulot, je prenais mon petit anxio.
Il n'y a pas de honte.
Ça me passait la journée.
Tu dis, j'avoue.
Non, mais je comprends que tu aies une difficulté. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Enfin, j'ai du mal à faire parce qu'on te sort tellement de trucs autour de ça. Tu as peur d'être accro, tu as peur de plein de choses, tu vois, trucs un peu glauques.
Oui,
alors qu'en vrai, c'est une aide. Enfin, je veux dire, quand tu as mal au ventre, tu prends un doliprane, tu vois.
Oui,
c'est pas la même chose, mais en même temps, ça soigne.
Ouais, c'est plus la forme de dépendance. Mais bon, voilà, vraiment, de toute façon, même pour dormir.
Moi, ça allait pas. Enfin, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que là, je vois ma femme qui... Ça change.
Ouais.
Les rôles basculent. Le jour de l'annonce de ma formation, bien sûr, je pleure beaucoup et tout ça. Alison, beaucoup plus difficile pour pleurer, beaucoup plus difficile pour comprendre. Enfin, pas pour comprendre, t'avais tout de suite compris. Mais
pour intégrer.
Intégrer, voilà. Et c'est bizarre parce que, en fait, le jour où on m'annonce la malformation de notre petite fille, je me dis, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et en plus de ça, aujourd'hui, je deviens maman. J'étais pas maman avant, quoi. Je deviens maman ce jour-là. Et pour ma femme, je vois que c'est encore plus difficile parce que pour le coparent, c'est très difficile de rentrer dans ce rôle de parent avant. Et on avait eu notre ancienne gynéco au téléphone et elle m'avait dit, tu vas voir, ça va être très difficile pour Alison, soutiens-la. Alors que tout le monde était autour de moi, nanana.
Mais c'est peut-être pour ça.
Ouais. Et en fait, non, c'est elle qui avait besoin d'aide. Et en fait, dans sa famille, ils sont très forts. Sois fort, très fort. Sauf que là, tu peux pas. Tu peux pas être fort, là, dans ces conditions-là. C'est pas possible. Donc là, t'es en pleine fragilité, vulnérabilité. Et Alison, là, ça lui pète à la tronche parce qu'elle a pas le choix. Et ben moi, l'anxiolytique, je dis, et pourtant, mon métier ferait dire que non, on s'en fout, on peut faire plein d'autres choses. Non, là, en fait, l'anxiolytique, c'est pour gérer les crises d'angoisse. Et Alison, elle était dans une angoisse, elle était en train de s'enfoncer dans quelque chose, et il va falloir être fort. On ne peut pas s'enfoncer, en fait. Parce qu'il y a bébé qui va venir quand même, enfin on sait pas, on a 15 jours d'attente, je vais peut-être devoir tuer mon bébé, je sais pas. Mais non, Alison, toujours optimiste, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais toujours à fond optimiste, mais non, je suis sûre qu'elle a rien, elle a rien.
Mais le problème, c'est que là, elle avait pas rien.
Ouais.
C'est qu'en fait, ton optimisme a toute épreuve.
Nous, le rien, quand on a appris ça, le rien, c'était pas de maladie génétique.
Ouais.
Oui. Ouais. Mais comme
mais elle avait quand même quelque chose.
Avait... Oui. Ouais, c'est oui. Ça. On nous a confirmé quelque chose, donc ça veut dire que c'est possible qu'elle ait quelque chose. Ouais. Donc pour moi, c'est comme si on avait ouvert la porte d'Ali Baba. Elle peut tout avoir, quoi. Ça y est.
Mais en même temps, toi, c'était quelque chose sur lequel, même si, enfin, tu t'étais préparée en fait. C'est une angoisse qui était là de se dire en fait il y a quelque chose qui va pas et en fait à un moment on te dit oui c'est vrai il y a quelque chose qui va pas, tout comme avec ton endométriose on t'a dit ok là il y a un truc vraiment c'est ça qui va pas, mettre des mots, alors que peut-être que pour toi ça a été peut-être plus violent aussi parce que il y avait pas cette appréhension avant.
Oui, c'est moi, après on a fait les deux premières échos à 2 semaines d'intervalle là, et je me dis bon c'est bon maintenant. Je me suis toujours dit une fois qu'elle serait là, enfin que le bébé se sera accroché,
il ne pouvait plus rien.
Ouais, moi les trucs des fausses couches, j'y croyais. Enfin, facile à dire hein, qu'on en a pas eu.
Je te jure pour que nous, ça arrive à beaucoup de
gens. Non mais, ouais, je sais. Mais pour nous,
ça devait pas, ça pouvait
notre
pas.
Notre galère était avant.
Ouais, c'est ça, ça pouvait pas nous arriver.
Ouais, voilà, notre galère était avant. Enfin, je sais pas pourquoi.
Mais tu sais que ça, je crois que c'est quelque chose qui est très commun aux couples qui vivent la PMA.
Oui.
Ouais, de se dire en fait, mais. Sans aller dans les gros problèmes médicaux comme les vôtres, hein, mais de se dire qu'en fait, tout ce qui se passera après ne pourra pas être pire. Et c'est là qu'on voit beaucoup de dépression du postpartum, oui, par exemple. Parce qu'en fait, elles se disent tellement « j'ai vécu le pire »
c'est vrai.
Qu'en fait, elles ne se préparent pas à ce que ça peut être. Et ça ne veut pas dire que c'est pire ou moins pire, ce n'est pas ça la question. C'est que c'est violent quand même.
Oui.
Et que du coup, c'est quelque chose où on se dit, ouais, bon, c'est bon, moi, je vais y arriver. Parce
puis
que j'ai
tellement
vécu
voulu.
Ça.
Oui, on idéalise peut-être un peu trop.
Voilà. Et c'est très commun en couple qui vivent la PMA.
Je veux bien le croire.
Ouais. Du coup, ouais, il a fallu retourner travailler.
Ouais.
Et du coup, à un moment donné, bah, moi, en kiné, en gros, je fais mon agenda la semaine. Là, j'ai pas fini mon agenda pour la semaine prochaine, par exemple. Ouais. Et donc, du coup, à un moment donné, je dis, bah, va falloir quand même que j'y aille, quoi, pour avoir un agenda pour la semaine prochaine, quoi. Et du coup, j'envoie un texto à la sœur de Natacha, elle voulait pas, elle. J'envoie un texto à sa sœur, elle dit, est-ce que tu peux venir télétravailler pendant que je sais que ça va me prendre la matinée. Je suis allée la matinée au boulot pour faire tous les. Appeler tous mes patients. Et lundi, c'était reparti, quoi. Et la vie reprend.
C'est 2 semaines d'attente, c'est ça? Pour les résultats?
Lol.
Il y a eu des petits problèmes, évidemment.
Évidemment, ce n'est pas drôle.
Sinon, c'est chiant.
Sinon, on fait le podcast en 10 minutes.
Et du coup, là, ils nous ont dit, on vous avait une première partie des résultats. Donc, on a fait la ponction le vendredi. On devait avoir des résultats lundi.
Oui, non, et lundi puis toi, tu avais vu dans les fiches que souvent, c'était une trisomie 19 avec la malformation qu'on avait.
Ouais.
Donc, quand Alison me dit ça, je me dis, bah, génial. Okay, bon.
Oui, et on avait les résultats plus vite des trisomies que les restes. On les avait 4 jours après.
C'est ça.
Et au bout de 4 jours, on n'a pas de réponse. On appelle en disant, on n'a pas eu les résultats. Non, mais vous passez mardi en commission. Parce que quand on est parti dans un gros truc, tous les dossiers un peu compliqués, le mardi, ils passent en commission Jeanne de Flandre. Donc, vous passez en commission mardi. Et voilà, les résultats, ils vous êtes donnés. Et en fait, ils nous appellent en disant on est arrivé trop tard le mercredi, vous n'êtes pas passé dans la salle de ce mercredi. Donc on a repris une
semaine
de plus.
Même joueur joue encore.
Ok. Bon, donc, vous finissez par avoir quand même ce comité.
Et tout va bien.
Il n'y a pas de trisomie, il n'y a pas de maladie génétique.
Non.
C'est que ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand on entend votre parcours, on ne peut pas dire autre chose que c'est que
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Alors que c'est un truc... déjà énorme, mais c'est que ça.
Mais c'est
nous aujourd'hui, c'est que ça.
C'est que ça. Ouais, c'est pas grave, quoi. C'est routine, quoi.
Ouais, voilà. Solver, tranquille.
On est contente qu'il y ait que ça.
Ouais.
Ouais.
On est contente. Et du coup, là, maintenant, c'est voir comment ça évolue.
On a des échos très régulières. C'est parti. On rentre dans le
dans le tunnel médical.
Là, c'est une grossesse hyper suivie, médicalisée, quoi. Ouais, médicalisée de ouf, quoi.
Tout ce qu'on imaginait pour une grossesse.
C'est-à-dire que là, tu peux pas accoucher en hypnose.
Voilà. Bon, déjà qu'elle voulait me faire le délire d'accoucher à la maison.
là, non.
Non, mais c'est. Bon, bref, c'est un autre débat.
Non, mais voilà. Et du coup.
Je vais faire bientôt un épisode sur l'accouchement à domicile. Ouais, on va en reparler.
Et du coup, là, on tape bleu sur une échocardio toutes les 4 semaines. Plus idem avec le docteur Coulon à Jeanne de Flandre.
Écho de référence pour remesurer les bouts de cerveau, les bouts de doigts, tous les détails.
Ouverture du dossier à Jeanne de Flandre, la totale. Sauf que. Jamais tranquille.
un truc qui est compliqué, c'est qu'à chaque écho ou à chaque examen, on nous annonce un nouveau truc.
Ah oui.
À chaque fois. Donc, c'est fatigant et donc. Aller faire une écho, c'est angoissant. Mmh. Et donc, la petite, elle n'est pas non plus...
Elle n'est pas sereine.
Alors, on utilise d'autres techniques à côté pour parler avec elle, de la kinésiologie, de la communication avec un pendule ou avec des baguettes. Évidemment, je vais quand même utiliser mes...
On reste chez Natacha.
On va quand même utiliser mes pieds délires.
La perchitude.
Une perchitude. On
va pas se renier. Donc.
Oui. Donc voilà, on commence à faire des choses en plus à côté pour pouvoir parler avec elle, parce que en fait on peut parler avec son bébé intra-utérin. Parce que j'essaye de contrebalancer cette machine médicale qui est un truc de maladie. C'est une médecine de la maladie. C'est pas la médecine de la santé. On gère la maladie, on cherche la maladie. Et c'est génial, j'ai beaucoup d'admiration et heureusement qu'ils sont là. Enfin, sans eux, notre fille, elle ne pourra pas vivre. Donc,
Et puis elle n'aurait même pas pu être conçue.
Oui, et elle n'aurait même pas pu être conçue, effet. Donc, alléluia à la médecine, merci. Mais j'ai besoin de contrebalancer avec un petit peu de ma patte. Enfin bref, là je me suis un peu perdue, mais en effet on a plein d'échos, plein de...
Et à chaque fois des annonces, vous disiez.
À chaque fois des annonces.
La deuxième qu'on fait à Jeanne de Flandre, ça va, enfin il n'y a rien de particulier.
Elle grossit bien.
Elle grossit bien.
En fait elle a pris, à l'annonce, en fait elle était dans les bas, petits poids, et à l'annonce de la cardiopathie, elle double de volume en 3 semaines.
Elle est plutôt dans la courbe haute.
C'est bon signe.
Ouais.
C'est plutôt bon signe.
Donc ça, vraiment, on se réjouissait de ça parce qu'on sait qu'ils ont du mal à manger et ils perdent du poids. Donc voilà. Et puis celle-là, ça va. On refait une échographie avec le cardio. Et nous, il y avait quand même cette question d'accouchement à Paris qui trottait dans nos têtes. Et clairement, je lui dis, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut faire l'accouchement à Paris ou pas ? Et là, il nous dit, est-ce que ça vous dérange d'aller à Paris ? Bah, on lui dit pas. Bah,
logistiquement, bizarre. Oui. Enfin, c'est pas que j'habite à côté, mais.
C'est ça. Clairement, c'est pas. Il n'y a rien d'idéal d'aller à Paris.
Il faut une maternité à 15 minutes de chez soi. Enfin, donc.
Voilà. Et là, il nous dit bah, ça serait mieux.
Est-ce que ça vous dérange, ça serait mieux. Bah.
Puis là, Natacha, elle fait un espèce de petit malaise vagal pendant la. Donc, il lui a dit de se mettre sur le côté gauche. Il a remis la sonde pour regarder et dit. Je vois une sténose, c'est parce que la condition d'aller à Paris et de la chirurgie, la première chirurgie à la naissance, c'était que si c'était trop rétréci au niveau de l'artère pulmonaire, il fallait la faire. Mmh. Et là, il remet la sonde et il nous dit, faut aller à Paris. Ouais. Donc là, on est reparti dans un truc.
Alors là, une déception encore.
Là, c'est dur. Franchement, là, c'est
là, c'était c'est quoi pas C'était Jeanne de Flandre qui était prévue.
C'était Jeanne de Flandre.
Maintenant, c'est Paris.
Mais avec une menace d'héliportage à la naissance. C'est-à-dire que
hors de Jeanne de Flandre, parce que Jeanne de Flandre, c'est
Pour qu'il l'emmène à Paris. Hein.
Ah oui, non.
Un rendez-vous, on va à Jeanne de Flandre, on ouvre le dossier, et puis le pédiatre nous dit, oui, mais vous en faites pas, l'héliportage se fait très très bien, vous allez en ambulance et vous suivez en voiture, nickel.
Oui, mais alors l'humain dans tout ça, parce que pardon. Oui.
Non. Je viendrai d'accoucher. Qu'est-ce que tu racontes? Héliportage. Qu'est-ce que tu
dis? Oui, parce que ce qu'on précise pas, c'est qu'à notre fille, il n'y a que 4 chirurgiens qui savent le faire en France. Enfin, 4 chirurgiens. C'est des équipes de 2. Ouais. Donc, il n'y a que 2 équipes qui savent le faire en France.
Et ils ne sont pas à Lille.
Non, ils sont à Paris. Du coup, il nous dit, je gère, j'envoie le mail à l'assistante du chirurgien là-bas, elle vous organise tout et elle revient vers vous. Il t'appelle, vous devez être le jeudi à 9h à Paris. Oui, bien sûr, très pratique.
Le lundi, tu fais ta cardio, on t'annonce Paris, et puis le jeudi, tu dois tout annuler.
Après, 10 jours après, on doit être à Paris. Là, Paris,
franchement.
Franchement.
Je sais, franchement, là, de vous décrire, de te décrire, je me dis, mais putain, comment on est encore debout là, à ce moment-là, quoi.
Oui, oui, après, notre fille, elle nous donne beaucoup de force. Hein,
ouais, et puis on communique avec elle, elle est trop cool, ça se passe bien.
Ouais.
C'est une meuf
elle
cool.
Elle est trop géniale.
Heureusement, on a des copains à Paris.
Ouais.
Qui sont à 40 minutes, mais le matin, c'est-à-dire 2 heures.
Ouais.
Donc, on y va la veille, on mange un petit bout avec eux, on a pris un hôtel à côté parce qu'on ne voulait pas se prendre les 2 heures.
Oui, parce que presque y aller en TGV dès le matin, c'était peut-être plus efficace.
Non, franchement, tu ne sais pas comment se déplacer à Paris. C'est
au sud de Paris.
Oui, c'est compliqué.
C'est au Plessis Robinson et à Clamart. Mmh. Donc, ils ne veulent pas qu'on aille à Necker, ils veulent qu'on aille spécialement chez ce chirurgien-là qui est le virtuose de ce qu'on a, ce que notre fille a. Donc, ça veut dire la maternité à un endroit. L'hôpital cardio à un autre endroit, à 10 minutes.
Donc ça veut quand même dire de transférer.
Ouais. Mmh. Mais 10 minutes de transfert au lieu d'un héliportage et 3 heures d'ambulance.
Comme ça, c'est bien.
Tu vois,
c'est
pas mal. En fait, cool. Quand on t'annonce le pire.
C'est comme la malformation.
Ouais, c'est cool.
On t'annonce le pire et puis quand on te dit juste 10 minutes de route, tu dis ça va. Ouais, c'est bien.
Du coup, là, Paris.
Là, Paris, par contre, on se prend un deuxième bus parce que là, en fait, on ne sait pas. Mais en fait, on repasse tous les examens de la Terre. Donc, les sages-femmes, les prises de sang, les trucs d'urine.
Une écho.
Une écho de morpho de nouveau. Alors, de nouveau une écho. Du coup, de nouveau, ils vont voir forcément quelque chose vu qu'ils cherchent quelque chose. Il y a un problème au dos,
Ouais, alors, c'est bizarre, son dos. Qu'est-ce qu'elle a, son dos? On dit non, mais il n'y a rien au dos, là. Stop, elle a déjà été vue 50 fois, elle n'a rien.
Donc, je vous préviens, si à la 36e semaine, elle n'est pas retournée, c'est césarienne programmée. Hein.
Bah comme tout le monde, quoi.
Mais pourquoi me faire des menaces? Que puis-je faire?
Et puis là, donc elle nous fait une espèce d'écho. Franchement, l'écho qu'on a à Lille aussi, Docteur Coulon, elle est vraiment super aussi. Elle est vraiment très douce, très gentille. Et là, elle dit, bon, on va regarder le cœur. Ça vous dérange pas, on va regarder le cœur. Et là, elle passe 3 heures
sur le cœur.
Par curiosité.
Quoi? Par curiosité?
Ouais. Bah, c'est vrai qu'elle était avec une interne, il faut qu'ils apprennent. Et puis... si cette fille, elle fait après de la ville, c'est bien qu'elle sache le détecter. Nous, on a eu la chance qu'elle le détecte. Il y a des gens qui le détectent qu'à la naissance. Oui. Donc, on peut se préparer. Donc, c'est forcément... enfin, c'est bien qu'elle le fasse. Mais là, bon, bref.
C'était pas amené comme ça.
C'était pas très délicat. Puis nous, on en avait un peu marre. Quoi. Voilà. Donc on refait une écho cardio.
Oui, et là aussi, elle est trop sympa, la cardio.
Elle était gentille.
En vrai, tout le monde est super gentil. Tout le monde est très... il n'y a aucun médecin, aucun infirmier, aucune sage-femme.
Mais il lâche des punchlines.
Mais il lâche des punchlines sans s'en rendre compte, parce que c'est leur quotidien.
Ouais,
c'est leur quotidien. Ça. Et en fait, moi, l'équipe était top. Hein. On était hyper rassurés. Enfin, on ne critique pas du tout l'équipe. Hein. Ouais. Je ne veux pas que ce soit le message qui passe, parce qu'ils ont été très gentils. Ils nous ont vraiment essayé de nous rassurer. Ils nous ont pris en charge dans tous les sens du terme. Mais ils t'envoient des punchlines...
qui font mal.
Ouah, je pense qu'on va mettre du temps. On est bon pour le MDR et le FT.
Ouais, c'est donc... bien, vous n'aviez pas testé encore.
Ouais, bah, on a un petit peu, mais là, on est parti pour des vraies séances plus tard.
Ouais, donc là, elle re-regarde son cœur, cette cardiopédiatre de l'hôpital Marie-Lanne-Long où elle va se faire opérer. Et là, elle dit, ah bah là, s'il y a 4 globules rouges qui passent dans son artère pulmonaire, c'est beau. Hein.
Oh putain.
Donc là, on est là, ok.
Ah non, mais c'est sûr, là, c'est opération. Parce qu'en fait, on y allait, on n'était pas encore
pas sûr.
Ouais, là, c'est vraiment définitif, là, opération à la naissance. Et elle dit, par contre, ses artères sont très bien développées.
Ah.
Donc ça, c'est vraiment cool, parce que là, on a appris la semaine dernière que potentiellement, il aurait pu y avoir une greffe des artères parce qu'elles n'étaient pas belles. Donc,
là, il y a ça, c'est bon.
Ouais. Donc,
finalement.
Bon, finalement, c'est pas grave.
On peut se réjouir, hein, franchement.
Donc, du coup, elle nous dit ça. Et en fait, on avait le premier jour où il nous a parlé du petit tube en plastique. On a cru que c'était une opération par l'artère fémorale.
Mmh.
Et que c'était juste un petit truc en endoscopie, vite fait, 5 minutes et tout. Et je lui dis... et elle nous dit, oui, bon, bah... enfin, elle commence à nous expliquer. Et je dis, ah, du coup, c'est une opération à cœur ouvert. Ah ben oui, hein, madame, c'est une vraie opération. J'ai dit, oui, d'accord, je comprends bien qu'on va à Paris, pas pour faire jouer au docteur. Mais elle dit, mais c'est une vraie opération, madame. Et nous, on n'avait pas cette notion que la première opération allait être aussi à cœur ouvert. Et ça a été aussi un... ça nous a fait un peu chier, quoi. On pensait pas qu'elle serait deux fois ouvert le cœur.
Petit chat.
Ouais.
Puis ça fait une grosse cicatrice.
Ah, et puis qui restera à vie, pour le coup.
Et du coup, là... on comprend que... donc on remonte, on est revu par les sages-femmes qui nous expliquent comment ça va se passer à la naissance. Donc on a le droit aux 2 heures de peau à peau, de rencontre,
oui.
Si elle va bien.
La petite dame, elle te tape sur l'épaule en disant « voix basse, hein ». Quoi, voix basse?
Genre c'est un défi, genre
ouais.
Non,
les gars,
foutez-nous la paix.
Voix basse et pas pendant le week-end de l'Ascension.
Oui, Oui, si oui, vous voulez, on peut vous déclencher parce que ça sera autour du week-end de l'Ascension. Donc, et comme il n'y aura pas beaucoup de monde.
Il n'y a plus rien de spontané en fait.
On te vole tout quoi. Oui. Tout ce que tu. Mais c'est plus une grossesse. Enfin, tout bascule quoi.
Tout est médicalisé, tout est contrôlé, tout est.
C'est ça.
Il n'y a plus rien d'instinctif et de naturel quoi.
C'est ça. Ouais. Et on voit quand même le chirurgien, on a de la chance, on peut rencontrer le chirurgien.
On voit le chirurgien qui est très posé.
Ouais, surprenant. Ouais,
c'est bien qu'il soit pas des.
C'est bien que ce soit pas un énervé.
Je crois même qu'il se demandait. Ouais. Ah non, il tremblait. Je me suis dit, si je vois quoi que ce soit.
Il est en train de nous faire son petit dessin. On était là, vas-y, tu trembles, je sors.
Non, il a été gentil. Je crois qu'il nous a pris en affection. Mais on t'annonce quand même les trucs un peu durs quand même. C'est-à-dire que tu vas accoucher voix basse, t'auras peut-être un câlin comme tu disais tout à l'heure.
Donc elle va partir direct.
Si elle va bien, Alison elle va partir avec, et puis toi tu restes toute seule à la maternité.
Tu peux pas être accompagnée d'une troisième personne.
Et si à la maternité, mais pas Marie Lalonde, pas l'hôpital cardio.
Pas l'hôpital. Oui, mais tu peux avoir quelqu'un avec toi, c'est ça que je veux dire.
Oui, moi ouais. Oui, mais Alison elle sera toute seule avec Donc nous c'est un choc. Alors, je sais pas si ça se voit ou ça s'entend, mais on a du mal à se séparer. On est très. On aime bien faire des choses à deux. Et Alison en pleure parce que qu'est-ce que je vais faire avec ce mini truc que je connais pas.
Ouais, et puis je peux pas lui donner à manger.
Il va réclamer l'odeur de sa maman qui a porté. Voilà, en pleure. Et puis moi, en pleure. On va m'arracher. Moi, ça fait 2 ans et 8 mois que je suis enceinte, quoi. Et 9 mois. Enfin. Si on va à terme, on va m'arracher ma fille, quoi. Je veux pas. C'est encore aujourd'hui un chagrin intense, en fait, de nous dire on va être séparés. Et puis, la nuit, c'est qu'un seul parent à Marie-Lalonde. Donc, on va être séparés aussi à Marie-Lalonde. Quel parent reste
Pourquoi enfin...
Ouais, bah alors, c'est
ces questions-là, mais...
C'est un hôpital cardio. Les risques infectieux, il faut vraiment les...
Oui, enfin, les parents, une fois qu'ils sont là, ils sont là.
Ouais, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Alors, on va essayer de faire forcing. Et
puis bon, après, on est aussi dans une situation Covid qui complique peut-être aussi.
Alors, non.
Ouais, ils ont dit que c'était plus le Covid maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que.
Il faudra faire un PCR, madame. J'ai pas vous rigoler, je serai à la maternité. Bah, faudra vous organiser pour faire un PCR.
Vous pouvez prévoir.
Bah oui, comme vous allez à peu près savoir la date. Parce que si on a le Covid, on peut pas aller avec nous, forcément.
Mais bien sûr.
On peut pas y aller.
Bah oui.
Donc voilà, l'aller-retour parisien, costaud.
Ouais.
Costaud, oui, parce que c'est histoire de séparation, en fait. Ouais, tout le reste, on l'accepte vachement, l'opération.
Voilà, on t'ajoute toujours des petits trucs. Alors, ça se passe très bien, hein, ce genre d'opération, ça se fait très bien. Par contre, le post-opératoire peut être horrible. Ok, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? Et puis elle continue de parler. Moi, c'est le moment d'aller dire stop, je veux rien savoir. Mais en fait, ils sont obligés de te dire. Voilà, mais oui, parce qu'elle peut mal récupérer comme ça. Et puis il peut se passer ça. Et puis
il te sort tous les risques, mais comme il te donne.
Oui, en même temps, notre cardio à Lille, quand on lui a dit ça, il a dit ouais, mais ça arrive rarement. Enfin, il dit je vais pas vous faire toute la liste, sinon vous n'êtes pas sorti. Et puis voilà, et vous verrez au moment où il y aura besoin de le savoir, quoi. Du coup, voilà.
Oui, je pense que vous allez pas. Enfin, vous allez être assez entouré. Enfin, on va pouvoir répondre à vos questions, je pense.
Je crois, oui.
Et du coup, on avait une semaine après, ou une ou deux semaines après, une écho morpho à Lille.
C'est un garçon, finalement.
Non. Bah non, avec la myosynthèse.
Là, on était sûr que c'était une fille.
Et là, on refait une écho, et elle bloque sur le cerveau.
Ah.
Et là, elle bloque, elle reprend 50 fois les mesures et tout. Et à la fin, elle fait bon.
Elle participe pas très bien, elle est pas très sage avec moi. Là, t'as envie de dire, elle fait ce qu'elle peut, en fait, la petite,
y a un problème. Son corps calleux, donc c'est la jonction entre les deux hémisphères du cerveau, est dans la norme, mais vraiment au ras des pâquerettes. Donc c'est-à-dire que normalement, dans la norme, c'est entre 3% du percentile, là, pour ce... entre 3 et 97. Elle est à 3,6.
Ok.
Donc il nous dit votre dossier va passer en commission demain. Il va falloir certainement faire une IRM.
Une IRM fœtale.
Une IRM de Natacha, mais
voilà.
Pour faire une IRM cérébrale du bébé, une IRM.
Pour vérifier.
Mais c'est normal.
Ce bébé aura
ne
eu
vous
plus
inquiétez
d'examens
pas.
Médicaux que des gens.
C'est ça. pour vraiment vérifier que tout va bien.
Ne vous inquiétez pas.
Non mais
pardon.
Attends,
on fait pas une IRM.
Là
tout
tu
le monde.
Là tu dis c'est et ça. Encore une écho, ils nous sortent un truc sorti nulle part. Et là, moi perso, c'est vraiment la fois de trop quoi. Ouais. Vraiment, là...
Là, tu t'écroules, ça y est, là, je te vois vraiment verte. Ton teint vert, puis savoir parler, puis savoir dormir, puis savoir...
Donc là, c'est le lendemain, on reçoit un texto, ça sera le jeudi. Donc on les a vus lundi, le truc, jeudi.
C'est un mail.
On a failli pas le faire. Hein.
Ah ouais.
On a failli dire non, parce qu'on s'est dit, de toute façon, et bah, en gros, en plus, ils nous appellent en disant, oui, donc en fait, et on dit pourquoi, en fait, on le fait, bah, parce qu'il y a des gens qui veulent finir la grossesse différemment. On te fait un peu comprendre que... Bah,
on te fait comprendre, mais on te dit pas. Avoir le choix d'arrêter ou non cette grossesse.
Ouais. C'est ça. Et là, si jamais tu veux faire une naissance sous X parce que ton bébé il est pas normal ou
oui il y a plein de façons quoi.
Voilà
ouais, il y a plein de choses
ouais, voilà. Ça veut dire plein de choses.
Ils nous sortent un peu le truc bah si elle est pas normale vous mais là on se dit mais vous êtes tarés les gars ou quoi enfin on est à 8 mois de grossesse enfin
là on la garde
enfin qu'est-ce qu'on va faire on va la tuer enfin c'est quoi votre délire quoi.
Ouais mais après ceci dit ça reste un choix personnel
c'est
vois.
Ça
ouais
c'est
non, ça mais je... oui pardon
tu vois ce que je veux dire
ouais mais bon là dans notre cas ouais. dans notre cas oui pardon,
vous étiez sûr que... ouais, de ce que voilà. vous vouliez et que pour vous c'était on va jusqu'au bout
ah ouais
quoi. on peut pas juger de ce que les autres non. voudraient faire
mais dans votre cœur c'était
mais
ça
mais notre cœur nous on avait fait le choix donc j'ai dit bah, du coup à quoi ça sert quoi de faire l'IRM bah ça va vous rassurer.
C'est vrai que maintenant, une fois qu'il y a eu doute qui a été mis, c'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière. Mais de ce jour-là, on a mis un gros frein parce qu'on devait refaire encore une écho là lundi. Là, aujourd'hui, on est mercredi. On devait faire une écho il y a deux jours et on a dit non. Non, on ne fera pas celle-là parce qu'on doit en refaire une dans deux semaines pour voir si elle est bien positionnée. Et là, on a dit est-ce que celle-là, elle est vraiment nécessaire ? Enfin, même pas. Hein. On a dit on ne la fait pas.
Bah, on va tout faire en même temps. Si on se voit en fait cette IRM c'est hyper mal passé. Je suis restée
tu l'as fait
45 bah on l'a faite 45 minutes dans le tube, Alison qui attend 2 heures dans la salle d'attente. Moi 45 minutes dans le tube enfermée.
Tu peux pas bouger.
Tu peux pas bouger, je fais une crise de panique, je suis en larmes.
Arrête non, elle bouge beaucoup hein.
Oui, bah oui, bien sûr, on contrôle.
Voilà.
Oui, parce que c'est ton bébé doit ne pas bouger.
Bah ouais.
Lol.
Bah ouais. Et bizarrement, elle bougeait tout le temps la tête. Bah ouais, pour faire une IRM cérébrale pratique. Ouais. Bon, enfin bref, au bout de 2 heures, je sors en pleurs, en transe, mais pas possible. Alison, pas possible aussi, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Enfin, tu te demandes... Puis ça fait un bruit horrible, l'IRM, c'est vraiment pas du tout rassurant. Et bon, on voit quand même un médecin qui nous dit, c'est normal, c'est rassurant. Oui, en effet, c'est un peu petit, mais tout va bien. À ce moment-là, tu te dis...
Foutez-moi la paix.
Mais vraiment, moi je le disais à Alison et Alison, enfin on le criait au effort. Pour le coup, ça, j'ai pas eu de mal à le crier au effort. C'est là, je veux profiter de ma grossesse. Je veux profiter avec ma femme. Je veux qu'on prépare l'arrivée de notre bébé. Presque comme tout le monde, ça va être un peu différent, beaucoup différent. Mais on veut préparer, on veut être dans la grossesse et on veut envoyer des trucs cool, qu'elle vive des trucs cool, cette petite aussi, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'on annule aussi l'écho, parce qu'on fait aussi de la communication avec elle, et elle le dit qu'elle était en colère et qu'elle nous... Enfin, avec tous les thérapeutes qu'on peut rencontrer, parce qu'on est aussi accompagné de plein de thérapeutes qui nous aident, et elle nous a un peu crié dessus, notre fille, en disant bah vous me prenez pour une débile, arrêtez quoi, enfin je suis pas
débile, elle l'a dit.
Et
voilà. C'est la fille d'une de ses mères.
Ouais, c'est ça.
Alors là, vous le voyez pas, mais je viens de me faire viser du regard très insistement. Ça ne se fait pas.
Non, on dit pas ça. Mais voilà, et puis en fait, tu te rends compte qu'elle avait envie aussi de profiter de ses mamans et de kiffer. Et c'est vrai que, je sais pas, mais on trouve la force de dire ben non, on sent que les médecins sont un peu perturbés. Quoi, c'est-à-dire, vous n'allez pas vérifier que ça. De toute façon, maintenant, nous, notre décision est prise. On gardera notre petite fille et on l'accompagnera.
Quoi que ce soit à la naissance, de toute façon.
Ouais, ça ne changera rien.
Voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien. À part l'accompagnement cœur, on va continuer la question.
Oui, ça, bien sûr.
Attention, je dis ça, mais...
C'est juste cette
séquence. Mais pas les autres choses. Enfin, je veux dire, si demain, ils vous disent qu'elle a les pieds palmés, tant pis.
Ouais, ouais franchement.
Elle nagera bien.
Voilà. C'est un avantage.
Elle sera rapide. Mais, et puis, moi, entre-temps, je rencontre une... Donc, j'appelle l'association des petits cœurs de beurre pour annoncer qu'on va accoucher à Marie-Hélène Long, enfin à Clamart.
Alors, attends, parce que cette association, avant de. Voilà, comment vous l'avez connue ?
c'est moi. J'ai tapé association cardiopathie congénitale. Ouais. Et là, c'est sorti tout de suite. Et effectivement, ils font plein de choses. Ils font des conférences pour expliquer comment ça se passe une hospitalisation. Vraiment beaucoup de choses. Et là, ils font même tout un livret pour les parents qui ont eu un enfant avec une cardiopathie congénitale. Ils expliquent les plus grosses cardiopathies qui arrivent. Alors, notre n'est pas dedans, forcément. Mais il y en a une qui ressemble. Et voilà, il y a plein de fiches, plein de trucs, plein d'infos. Alors, c'est toujours... ça reste fait par...
l'association.
Une association. Donc voilà, il faut... Tout ce qui est mis est vrai et bien. Après, on a eu des mamans au téléphone et tout, mais... chaque cardiopathie est différente. Ouais. Donc, voilà,
y a c'est
eu...
considéré comme maladie rare, en fait, la cardiopathie. D'accord. Parce qu'en fait, chaque cardiopathie, j'ai du mal à le dire, est unique. Ouais, donc, ça reste une maladie rare, en fait. Même s'il y en a une sur 100, ça reste une maladie rare. Mmh.
Okay.
Enfin, franchement, cette association, c'est un truc de fou, tout ce qu'ils font.
Ça vous permet d'entrer en contact avec des personnes qui vivent ce que vous avez...
Exactement.
Qui ont vécu ce que vous vivez, en fait.
Oui. En fait, ça te permet déjà de mieux comprendre ce qui va se passer, de mieux comprendre ce qu'il se passe dans son cœur. Quand je les contacte, en fait, je comprends que j'ai besoin de parler avec des mamans qui ont accouché à Paris et qui ont vécu un accouchement différent. Mmh. Et donc là, j'ai eu, on va dire, la bénévole de Marie-Lane Long, qui est super sympa et qui tout de suite... je te dis ce que j'aurais voulu savoir, c'est ce qu'elle me dit. Ça va être très dur, voilà. Donc ça va être très dur, mais tu vas le faire et puis ça sera un vieux souvenir à un moment donné. Mais prépare-toi, façon il fait chaud, tu prends des bodys, des machins. Enfin, on commence à rentrer dans la logistique. Faut que des bodys cache-cœur. Si tu veux quelques pyjamas, mais il fait très chaud là-bas. Faut que tu prépares aux machines, au bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Donc si tu peux visiter une néonate, ça va te permettre de te préparer.
On a visité celle de Jeanne de Flandre.
Super sympa. Voilà, donc on a pu aller faire celle de Jeanne de Flandre. Et puis fais le deuil d'un accouchement, d'une grossesse physio, fais le deuil de tout ça. Tu sais bien que le plus important, ça sera la santé de ta fille. Et voilà. Après, grâce au réseau, j'ai une autre maman qui insiste pour m'avoir au téléphone. Et heureusement, parce qu'en fait, moi, j'ose pas embêter. Et elle me dit, moi aussi, j'ai accouché à Necker, prends des boules quies, parce que toute seule, avec des bébés qui pleurent à la maternité, sans ton bébé, ça va être dur. Donc, prends des boules quies pour pas les entendre. Et puis, elle t'explique des choses comme, moi, j'ai accouché à 3,6 kg. Et après son opération, notre petit, il est sorti à 2 kg. Donc,
c'est pour ça que c'est bien.
C'est bien d'être
on a des infos. Mais des fois, il y a des trucs...
costauds, quoi.
Ouais.
Mais en même temps,
c'est nécessaire de le savoir. Parce que si vous ne saviez pas, ça peut être une source d'inquiétude. Alors qu'en fait, vous savez que c'est normal, entre guillemets.
C'est ça.
Ça peut arriver.
On se prépare à toutes les éventualités. Grâce à Instagram, j'ai une petite Sophie qui me contacte. Enfin, elle est grande, elle a 30 ans, elle a eu un enfant. Mais c'est une petite. Et elle me dit, moi, j'ai une cardiopathie petite. Et je lui dis, je veux parler avec toi, est-ce qu'on peut se rencontrer, je veux savoir comment t'as vécu la cicatrice, est-ce que t'es complexée, comment t'as vécu le fait d'avoir la cardiopathie. Elle explique cette notion d'être un enfant qui a eu de la chance. Parce qu'en fait, on lui a répété souvent, t'as eu de la chance, hein, t'es passé par la petite porte. Hein. Et puis en fait, ce qu'elle expliquait...
de devoir quelque chose.
Voilà. Mmh. Et j'ai pas ma place, j'ai pris la place de quelqu'un, j'ai pas ma place, toutes ces problématiques. Et donc, ça me permettait de me dire comment je dois te parler, ma chérie, de quoi t'as besoin. C'était important pour moi d'entendre tous les parents et aussi un enfant adulte qui a vécu une cardiopathie.
Et on a le copain de ma meilleure amie aussi qui a eu aussi une cardiopathie et avec qui on a pu avoir une bonne discussion aussi, qui l'a vécu différemment lui. Pour le coup.
Parler avec Cédric, c'est vrai que c'était une discussion pas facile parce que il disait des choses, je crois que toi, t'as pas envie d'entendre quand t'attends un enfant qui a une cardiopathie, en mode, moi, je sais qu'un jour, je devrais me faire opérer et que je pourrais mourir du jour au lendemain et que je pourrais mourir jeune. Attends, moi, je suis en train de faire ce lien-là avec ma fille, tu peux pas dire ça. Mais si, il le dit parce qu'il le vit et il a vécu ça. Et en fait, on peut pas, même si on est les parents d'un enfant qui a une cardiopathie, on peut pas savoir comment tu le vis.
Mais en même temps, tu vois, en tant que parent tout court, je crois qu'il faut qu'on se rende compte que, et je crois que c'est le plus dur en parentalité, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas sauver nos enfants.
C'est vrai. Et ça, ça a été une prise d'en conscience.
Mais que ce soit physiquement comme psychologiquement, il y a des choses, des douleurs, typiquement peut-être la douleur que votre fille pourra subir et connaître, on pourra accepter qu'on ne pourra jamais lui prendre et accepter qu'on ne pourra jamais la connaître non plus.
Oui.
Et de jamais la comprendre totalement. Donc en fait, c'est aussi bien pour elle, pour plus tard, de se rapprocher des personnes qui ont vécu ce qu'elle va vivre finalement, pour avoir cette référence-là, si elle en a besoin.
Bah, cette association, elle fait des visios rien que pour les personnes qui ont eu une cardiopathie.
Ouais, pour les ados. Pour
les ados, et rien que pour les parents, parce qu'on vit différemment.
C'est ça.
Et vraiment, c'est une association de référence, vraiment.
Puis voilà, dans les hôpitaux, ils permettent d'avoir... Il y a un lave-linge pour qu'on puisse laver nos linges. Enfin, il y a des trucs pour que les parents... Ouais, voilà. Il y a de l'argent qui est dépensé pour que la vie des parents sur place soit plus facile, pour les soignants. Donc voilà, c'est top de pouvoir être aidé de gens qui ont vécu la même chose, qui comprennent, quoi.
Ouais, carrément.
Et tu vois, parce que moi je parle souvent à ma fille, je parle souvent et cette notion de t'expliquer que en fait c'est tout, c'est son chemin à un moment donné. Mais c'est vrai que je lui parlais, je lui disais, tu sais ma chérie, on sera toujours avec toi, on t'accompagnera toujours et t'as le droit de pas être forte tout le temps parce que là on attend d'elle qu'elle soit forte tout le temps. Et je lui dis, mais à un moment donné c'est toi qui auras ta capacité d'auto-guérison, ta capacité... tu seras responsable de ton bonheur et c'est toi qui devras faire ton chemin. On sera toujours près de toi. C'est vrai que j'ai senti à un moment donné ça quand je parlais avec elle. Et je me suis dit, ouais, c'est important. On ne peut pas lui prendre son chemin. C'est à elle, quoi. C'est costaud, mais c'est à elle, quoi.
Ouais. Mais bon, elle sera bien accompagnée.
Mmh. Oui.
Voilà. Et là, donc là, la suite, c'est que c'est dans un mois.
Nous débarquons à Paris pour un premier rendez-vous. Donc le terme est prévu 30 mai. Et donc on a rendez-vous le 23 mai. Donc on va quand même aller un peu à Paris un peu avant.
Ouais.
Ouais.
On devrait quand même au cas 15, où. 20, 15, si 15 on doit, voilà.
Prochaine étape, c'est Paris. On a eu la grande chance d'avoir une personne très 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 généreuse.
Suite à un appel à solidarité, il y a eu beaucoup 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 de partage.
Et on est tombé sur
un petit
une perle. Ouais. Et une ils ont une dépendance et qui nous laisse arriver quand on veut et repartir quand on veut.
Super.
Elle nous dit, mais il y a juste une cuisine, une salle de bain et un lit double, j'espère que ça va aller. On est là, une tente, oui. Ouais.
Parce qu'en fait, voilà, mais c'est vrai que...
c'est difficile de louer un Airbnb. Ouais,
bon, t'as pas les dates.
Parce qu'elle va accoucher.
T'as pas les dates.
Et puis tu vas payer un truc.
C'est encore un budget.
Et tu sais pas combien de temps on va rester. Ouais. Parce qu'en fait, après l'opération, on va mettre 4 jours à récupérer ou 3 semaines, tu sais pas. Ouais.
Difficile.
Donc difficile de louer quelque chose, trouver un endroit, et puis on trouvait pas vraiment quelque chose d'accessible, c'était pas évident, et puis on sait qu'on va s'alterner. Y en a une qui va dormir, une autre qui va aller qui va rentrer dans ce petit studio qu'on a trouvé génial, enfin voilà, là pour le coup la séparation on va la vivre, on va l'expérimenter.
Elle va être multiple la séparation,
bien
ouais.
C'est-à-dire que ça va être une séparation avec elle, parce que...
Oui,
une séparation entre vous.
Mm-hmm.
Ça va être
différent.
Quelque chose. Mais on en parlera d'ici un an.
Oui.
Mais en tout cas, c'est ce qu'on a prévu. C'est-à-dire que là, on en a fait deux. Je sais pas, peut-être j'en ai fait trois, j'en sais rien. En vrai, je sais pas en combien je les ai divisés encore. Mais en tout cas, on en a fait deux. Et l'idée, c'est d'en refaire un après pour raconter ça. Parce que je pense que... Et vous pensez aussi que c'est important.
Oui,
pour tous les couples qui vivront ce que vous vivez aujourd'hui, pour toutes les familles qui traversent, que ce soit la PMA, l'annonce et la grossesse et l'opération après derrière et tout ce que ça implique, c'est important de le faire. Vous avez cité l'association Petit Cœur de Beurre, on peut les retrouver sur Internet. Il y a des actions qui sont menées régulièrement.
Sur Instagram, ils mettent plein d'infos.
Ouais, ils ont besoin de dons, ces personnes, j'imagine, donc si vous pouvez... allez-y. Et puis en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur, vous le savez, je vais peut-être pleurer à ce moment-là. Parce que, voilà. Je vous envoie mes meilleures ondes pour cette naissance et que du bonheur en fait.
Bah oui.
Mais ça va être que du bonheur.
Oui.
C'est quand même un petit bébé. Hein.
Bah oui, quand même.
On attend notre petit bébé d'amour et puis on va tout faire pour se séparer le moins possible.
Bah ouais, quand même.
Quand même.
Et puis bon, après, il y a la chance d'avoir cette technologie qui s'appelle la visio aussi. Ça peut être pas mal. Et, et ça fera partie de votre histoire. Ça veut pas dire que c'est moins douloureux pour autant. Ça veut pas dire que ce sera moins important, mais ça fera partie de votre histoire. Et, oui. Et il ne reste plus qu'à écrire la suite. Quoi.
Mmh. Oui, merci Élise.
Merci Élise.
Pour ta patience, ton travail.
Arrête,
et tout ça.
Je vis bien moi, ça va, enfin je veux dire, tout va bien.
Bah, merci quand même, du fond du cœur, merci aux gens qui ont écouté, qui ont été attentifs. On a oublié plein de petits détails, je suis sûre, mais on a donné plein de petits détails.
Et on veut
détails
absolument
aussi
remercier nos familles, vraiment, vraiment, vraiment. Nos amis, proches, enfin tout le monde se reconnaît, je pense, quand on dit ça.
Ouais. Tous les élans de solidarité, même de
personnes,
générosité,
de générosité,
des cadeaux depuis, c'est un truc de fou.
Ouais,
donc merci du fond du cœur, ça rend les choses plus douces parce que oui, il y a un grand élan de culpabilité dans tout ça. Tu crois que c'est de ta faute ou que c'est parce qu'on a fait de la médecine ou des PMA, des trucs, ça arrive, mais en fait, ça arrive à
aussi. Oui, parce qu'on a quand même eu ces remarques. Hein.
On a eu ces remarques.
Vous pensez que c'est parce que
ça a été trafiqué avant?
Avant, ouais, avant. Oui, parce qu'on connaît plein de gens et puis tout le monde a des cardiopathies quand ils font de la PMA, c'est bien connu.
Bref. Non, mais c'est surtout qu'en fait, il y a aussi plein de cas de cardiopathie sans PMA.
Bah, bien sûr.
Exactement.
Ça ne veut rien dire.
Donc voilà. Bref, mais merci tous
ces
élans.
Merci du fond du cœur à tout le monde.
Toutes les personnes qui se reconnaîtront. J'ai trop de monde en tête, donc amour, 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 amour.
Love, love, love pour les internationaux.
Merci pour la traduction.
Et bien merci à vous les filles.
Merci à toi. À bientôt.
Merci mille fois d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. À l'heure de la diffusion de cet épisode, Natacha et Alison sont parties à Paris et s'apprêtent à donner naissance à leur petite fille. N'hésitez pas à inonder leurs réseaux sociaux d'amour et d'ondes positives. Elles en auront bien besoin pour les semaines à venir. Vous trouverez les liens en description de ce podcast ou sur le post dédié sur mon compte Instagram @elise_dubas, prenons un café. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, la semaine dernière, Natacha Datitlan, tiens, qui peut bien être cette personne, écrivait un podcast d'utilité publique. Écouter des histoires si proches de nous et en même temps toutes uniques, ressentir, comprendre et surtout se dire que nous ne sommes pas seuls. Merci Élise pour ton travail précieux pour l'évolution de notre société. Merci encore Natacha pour tes mots, tout ce que tu m'as apporté et tout ce que tu apporteras à d'autres avec le partage de votre histoire. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain, et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.